C'est moi ou il est très fort?
Ah putain.
Quel relou. Bon. On peut commencer?
And it's lights out and away we go. And Kimi Raikkonen gets away. Well, covers off Sebastian Vettel. Hamilton slipstreaming behind Vettel, who pulls out to the left-hand side of the shot. And damage for Brendan Hartley. Lock up there for Kimi Raikkonen, but he makes the first chicane. Hamilton and Vettel almost touch. Verstappen's on the inside of Bottas, and he's made up a place. Going over the grass, it's Kevin Magnussen in the Haas. It's Raikkonen for Vettel from Hamilton for Verstappen. Bottas under pressure now from Grosjean. Then Hamilton and Vettel has been spun round. Disaster for Sebastian Vettel at the start of this race.
Salut à tous, c'est Gus Gus, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV, votre podcast préféré sur la Formule 1. On se retrouve après un peu plus d'un mois sans émission, on s'était vu pour enregistrer la dernière émission le 30 mars. On n'a pas fait d'émission le mois d'avril, on se retrouve aujourd'hui ce soir, on est le 8 mai, nous enregistrons évidemment cette émission pour revenir sur l'actualité donc, du mois d'avril et de ces dernières semaines. Et évidemment je ne serai pas seul pour traiter de cette masse d'informations. J'ai avec moi trois personnes et nous sommes tous les quatre liés par les liens du recrutement. J'ai d'abord la personne qui m'a supplié et qui aujourd'hui se mord les couilles de l'avoir fait, de rejoindre l'aventure SAV. Il s'agit de Dino. Bonsoir Dino.
Bonsoir Gus Gus, bonsoir à tous.
Comment vont tes testicules du coup depuis cette année 2011?
Alors en fait, je ne t'ai pas écouté, mais mes testicules vont bien.
Parfait. Nous avons aussi quelqu'un qui... Alors, il y a... Tu vois, je parlais du recrutement, en fait, puisque tu ne m'écoutais pas.
Je peux pas t'écouter et lire Quentin. et je préfère lire Quentin que t'écouter, excuse-moi.
Eh bien, écoute, bienvenue, Quentin, bonsoir. C'est pas grave, pas de présentation pour toi pour la faute de Dino, ben, mais ce n'est pas grave.
Écoute, si c'est de la faute de Dino, c'est pas grave, je l'excuse. Bonsoir, excuse.
Salut. Quentin, dont j'ai participé activement au recrutement un soir sur le chat, nous étions face à face et où je l'ai incité à poser sa candidature.
Après une émission de Laurent Ruquier.
Même je me rends les testicules. Voilà. Et nous avons avec nous pour le quatrième et dernier, le dernier venu. Vous avez pu le lire et je vous invite à ne pas faire comme moi, à aller lire les articles qu'il a publiés ces dernières semaines sur le site, Dieu savait. McLovin, bonsoir McLovin.
Salut Gus Gus, salut tout le monde.
Qui a publié sur le mois d'avril, puisqu'on n'a pas fait d'émission, mais au moins on a fait des articles. On rattrape un certain retard aussi sur ce pan-là de notre activité, à propos du Grand Prix des Pays-Bas. Voilà, je vous invite ardemment à le faire. J'irai moi-même, bien sûr, rattraper mon retard en la matière.
T'as intérêt.
Oui, calme-toi, fais pas trop le malin. Hein. Quand on fait que sa deuxième émission, on la ramène pas trop non plus.
C'est vrai. Voilà.
C'est que ta deuxième émission.
C'est la deuxième, ouais.
Ça, tu le dirais, il n'y a pas eu beaucoup d'émissions cette année.
Il n'y a pas eu beaucoup de Grand Prix pour l'instant. Hein.
C'est déjà la sixième. On a quand même réussi, malgré tout, depuis le 18 février, à faire six émissions. Enfin, pour l'instant, il y en a cinq qui sont dans la boîte. On enregistre actuellement la sixième. Espérons que tout se passe bien. Voilà. Bon, messieurs, comment ça va? On est le 8 mai. Normalement, d'ici 4 jours,
on est en télétravail.
ou en téléchômage. D'ici 4 jours, on devrait avoir un semblant de liberté en plus.
Ouais.
Mais avec des masques.
Avec des masques, avec quelques.
Si vous en trouvez.
si vous en trouvez, si vous ne faites pas partie, comme j'ai la chance d'en faire partie d'une ville qui vous envoie par la poste des masques. Voilà. On attaque. On a pas mal d'infos à défricher.
Ouais. Il est déjà 23h30. Donc,
il est déjà avec ses conneries. Je vous propose qu'on commence par le calendrier.
Allons-y.
Ouais.
Alors, on s'est quitté il y a un mois sur la volonté de faire entre 15 et 18 courses sur la deuxième partie de l'année 2020. On est toujours aujourd'hui début mai sur cette volonté-là. On en sait un peu plus sur la façon dont Liberty Media et le monde de la Formule 1 va essayer de faire se produire ce petit miracle. Déjà, on table sur un début à huis clos en Autriche début juillet. Voilà. Pour ce faire, on va essayer de mettre en place un vase qui soit le plus clos possible. On parle de biosphère, on parle de tester tout le paddock et de que ce petit monde se vive en vase clos. On parle de l'absence des motorhomes. Voilà, et on parle du coup d'une saison qui sera pour une fois organisée en visite sur les continents. Une fois n'est pas coutume, puisque c'est un des plus gros griefs qu'on a dans le SAV de voir un calendrier complètement désorganisé. Notre vœu, visiblement, risque de se réaliser si cette saison part un jour ou l'autre, puisqu'on commencerait donc en Europe au cœur de l'été. On migrerait vers l'Eurasie, on s'imagine, avec l'Azerbaïdjan, la Russie. On partirait vers l'Asie, puis l'Amérique, et enfin on finirait dans le Golfe. Niveau calendrier, d'autres infos sont tombées aussi, plus particulièrement sur les Grands Prix. On a eu l'annonce de l'annulation du Grand Prix de France, qui ne sera donc pas reporté, mais tout bonnement annulé. On a eu évidemment les reports des Grands Prix qui devaient avoir lieu jusqu'ici, à savoir le Canada, les Pays-Bas, l'Espagne, etc. etc. On sait que certains grands prix auront lieu, si tel est le cas, à huis clos, comme la Hongrie, comme la Grande-Bretagne, donc l'Autriche également. On sait qu'il y a des pays où les restrictions aussi vont empêcher que les grands prix se déroulent, ou en tout cas pas avant une certaine date. Par exemple, les Pays-Bas qui n'auront pas de grand prix avant le 1er septembre. Voilà. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, 8 mai, toujours pas de calendrier, même prévisionnel. Voilà, je voulais avoir votre sentiment sur ce qu'essaye de faire la FIA, ce qu'essaye de faire Liberty. Est-ce que selon vous, on se dirige vers quelque chose qui va débuter un jour ou l'autre? Est-ce que c'est raisonnable selon vous de le faire?
Une petite lueur d'espoir en tout cas, parce qu'il y a un mois, tout ce qu'on avait comme info, c'était des grands prix qui étaient supprimés. Là, on arrive un petit peu à avoir l'esquisse d'une ébauche de quelque chose. On se projette un petit peu vers le futur, même si c'est très très flou et très incertain. Au moins, on avance un petit peu.
J'ai surtout l'impression que c'est la méthode Coué, hein. C'est-à-dire que pour le moment, on annonce, on montre qu'on avance, mais dans les faits, on n'annonce rien. À part avoir fait une carte en disant « voilà, on va répartir la saison de façon à peu près cohérente et à partir du premier week-end de juillet », mais dans le fond, au final, même quand on avait annoncé ça, on n'avait pas encore l'accord, parce que c'est pas possible, l'accord du gouvernement autrichien, et même aujourd'hui, dans le discours, on est en train d'évoquer peut-être une fin de saison en 2021, et peut-être même le fait d'aller sur des circuits qui n'étaient pas prévus initialement au calendrier.
Tout à fait, tu me coupes l'herbe sous le pied sur ces infos aussi. On parle aussi de courses, de grands prix, en tout cas de circuits qui reviendraient à plusieurs reprises. Alors selon divers tracés ou non, par exemple Silverstone, y a plusieurs tracés qui sont homologables pour la Formule 1. Bon, il reparle Silverstone du tracé à l'envers, mais on sait très bien que c'est...
Ça paraît pas très sérieux, ça.
Non, c'est pas sérieux du tout. Il y a de très bonnes vidéos de Chainbear F1 notamment, qui expliquent très bien pourquoi. Je vous invite à aller les voir aussi.
On peut peut-être expliquer.
Oui, très rapidement, déjà, la FIA, elle homologue un tracé. Déjà, sur un même circuit, elle homologue des tracés. Le sens, il fait partie du tracé. Les barrières sont les murs, les murets sont les postes de commissaire. Les accès à la piste sont faits pour un sens de circulation. Ça coûterait... financièrement,
les dégagements
dégagements sont aussi conçus dans le sens de circulation.
Tu prends le Grand Prix d'Autriche, tu prends le circuit d'Autriche à l'envers, tu as des gros freinages et tu as un mur qui est 5-6 mètres derrière le point de la ligne. Donc du coup, c'est impossible. Tu vois clairement que c'est pas possible.
Les accès au circuit, tu sais, les murets, les ouvertures, oui. Ça fait des murets saillants sur les bords de piste qui sont extrêmement dangereux. Enfin, voilà, c'est absolument... ça peut être rigolo, effectivement.
C'est dommage que Kubica ne soit plus là.
Le système d'arrosage. Oui. Oui, c'est vrai, ça lui aura rappelé quelques souvenirs légèrement douloureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc, des courses sur lesquelles on n'était pas censé aller, comme Hockenheim, comme Imola... alors qui là aussi ils sont pas contre des petits coups de pub
Oui. Mais après, pour faire un peu la balance entre ce qui a été dit par McLovin et Dino, C'est vrai que ça fait du bien d'entendre ce côté bonne nouvelle, mais d'un côté, la Liberty ne savait pas annoncer grand-chose d'autre, quoi. Est-ce qu'il valait mieux ne rien dire et passer pour des gens qui n'ont aucun plan de secours malgré tout ce qui se passe? Ou est-ce qu'il valait mieux annoncer ce qu'ils ont fait, quitte à ce que tout se casse la gueule parce que tout ce qui est confinement va perdurer dans certains pays qui sont concernés par des grands prix?
Mais ils sont obligés d'agir aujourd'hui. Enfin, on a déjà plus ou moins des infos de sponsors. Je crois que c'est le sponsor de Carlos Sainz et le sponsor de Kimi Raikkonen qui commencent déjà à dire que, voilà, il y a peut-être, à un moment donné, ils vont sérieusement réfléchir à retirer leur bille si la saison ne part pas. Donc, ils essayent, mais un peu comme tout le temps avec Liberty Media, et c'est normal, ils font un peu de bruit pour montrer que les choses avancent, qu'ils y travaillent, et je pense qu'ils y travaillent. Mais dans les faits aujourd'hui, ça me paraît quand même très compliqué de s'engager aujourd'hui sur un calendrier. Il y a tellement d'inconnus. Même admettons que tu puisses dans un pays, il faut que tu puisses aller dans le pays, il faut que tout le monde puisse aller dans le pays, en sachant qu'aujourd'hui tout le monde est dispersé aux quatre coins de la planète. Il faut que tu respectes les potentielles quatorzaines qui pourraient être imposées. Enfin,
Là où je vous rejoins sur le peu d'annonces, mais mine de rien, le non-silence, c'est qu'il ne faut pas oublier que Liberty Media, c'est une société cotée en bourse. D'ailleurs, le cours évolue actuellement, puisque c'est à la bourse de New York, je crois, c'est au Nasdaq, et qu'ils ont déjà perdu pas mal de leur valeur. Hein,
200 millions.
Si on prend le cours... Ouais, en tout cas, en capitalisation, ils ont perdu... à un moment plus de 50% de la valeur, c'est remonté un petit peu. L'action aujourd'hui elle est à $30 et en janvier elle était à $48, donc bon, elle est descendue autour des $20. Bon, donc ils sont obligés ils peuvent pas ne rien faire. Il y a quand même des investisseurs, il y a quand même des gens qui écoutent. Enfin, tu peux pas des sponsors, des grands prix aussi qui peuvent se dire bah moi j'ai plus envie de participer à tout ça. Voilà, ils peuvent pas rester complètement immobiles, même si forcément, comme toute fédération sportive, comme tout organisateur, ils sont soumis à des décisions gouvernementales, à des restrictions, à tout un tas de choses qui est hors de leur contrôle.
Oui, on l'a vu récemment en football, la Ligue 1 avait mis en place tout un plan de reprise du championnat, et puis du jour au lendemain, Édouard Philippe à l'Assemblée qui dit non, désolé, le football c'est terminé. Effectivement, on n'est pas à l'abri de ça en Formule 1, d'avoir le gouvernement autrichien qui dit non, votre projet de Grand Prix là début juillet, c'est pas raisonnable, on arrête tout. Donc oui, effectivement, Liberty Media là actuellement travaille sur du sable mouvant. On reste vraiment encore dans le flou.
Et alors, avec toutes les précautions qui s'imposent, puisque mine de rien, on est hypothétiquement à 2 mois du début de saison. Encore une fois, est-ce que vous êtes mine de rien optimiste pour que au moins ce premier Grand Prix ait lieu? Alors après, c'est hyper compliqué. La question que je vous pose, j'en ai conscience, mais est-ce que vous pensez que... qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je suis plus ou moins optimiste dans le fait qu'ils ont choisi l'Autriche pas pour rien non plus, parce qu'il y avait tout un tas de critères auxquels répondait l'Autriche au niveau de l'isolement du circuit, mais tout en gardant une proximité des accès en termes d'aéroports, d'autoroutes, et dans la façon aussi dont ça a été réfléchi, je ne sais pas si on avait prévu d'en parler après, mais de la biosphère que veut créer la F1 autour des Grands Prix. Et justement de pouvoir garder cette biosphère pendant 2 semaines en faisant 2 grands prix d'affilée sur un seul circuit. Donc je suis optimiste dans le sens où ça me paraît quand même assez bien réfléchi, où ils se disent pas on prendra le grand prix qui était prévu à cette date et on va le faire quoi qu'il arrive sur ce circuit avec ce qu'on aura sous la main, quoi.
Après, c'est pas forcément réfléchi à fond, c'est-à-dire que très clairement aujourd'hui, on veut maintenir le Grand Prix d'Autriche, on veut maintenir le Grand Prix de Grande-Bretagne, et les autres vont suivre. Mais le raisonnement aujourd'hui, la F1 aujourd'hui, si elle devait vraiment avoir une action et se projeter pour avoir quelque chose de concret, se projeterait plutôt vers l'Asie, par exemple aujourd'hui, plutôt pour essayer de développer des circuits vers l'Asie et se dire bon bah c'est temps. Tant pis, on ne fait pas de course en Europe cette saison parce que ça va être trop compliqué, parce que c'est quand même là où c'est le plus compliqué. Même s'il va y avoir nécessairement des questions avec le Brésil en fin de saison, avec les États-Unis, etc. Mais à la limite, autant faire un trait sur les Grands Prix européens, sauf que ça, ils ne veulent pas le faire. D'abord parce qu'il y a, c'est quand même deux Grands Prix, le Grand Prix Red Bull et le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est le Grand Prix national de toutes les équipes, et aussi le fait que toutes les écuries sont basées en Europe. Donc il y a cet enjeu-là. Mais je trouve que c'est assez bloquant et handicapant, et qu'effectivement, ils essayent de maintenir des choses et de maintenir un intérêt pour la saison européenne. Et je trouve que, du coup, le calendrier, il est un peu piégé par ça, parce qu'on voit la volonté de faire deux Grands Prix de suite, à part pour justifier du nombre de Grands Prix, ce qui n'est pas nécessaire. Il en faut que 8 pour valider le championnat. Ouais. Mais justifier les rentrées d'argent, etc., c'est aussi la raison de se dire, bon, on fait le plus de Grands Prix possible en Europe, même sur un nombre limité de circuits, parce que bah, voilà, en Europe, c'est là où on a nos bases et c'est le plus facile.
Mais déjà, je pense qu'ils se bloquent à l'Europe, parce que si tu annules l'Europe maintenant, en octobre, enfin même fin septembre, octobre, tu pourras plus ramener l'Europe, ce sera trop tard en termes de conditions météo pour ramener l'Europe à ce moment-là du calendrier. Et par rapport aux 15 Grands Prix, en fait, je pense qu'ils annoncent 15 Grands Prix, parce que pour les sponsors, c'est un peu spécial, parce que c'est apparemment négocié un peu à la course, mais pour les télés notamment, en dessous de, enfin en tout cas jusqu'à 15 Grands Prix, ils peuvent encore, enfin le contrat tient encore avec les télés, mais en dessous de 15 Grands Prix, à ce moment-là, les contrats avec les télés ne tiendraient plus. Et là aussi, ce serait une grosse somme d'argent qui jetterait à la poubelle. Et je pense que c'est pour ça qu'ils disent depuis le début entre 15 et 18 Grands Prix.
Alors, je vais reformuler ma question. Enfin, je vais poser la question un peu différemment. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui raisonnable de vouloir à tout prix, enfin à tout prix, forcément si les autorités autrichiennes disent demain il n'y a pas de Grand Prix, bah il n'y a pas de Grand Prix, mais est-ce que ça vous paraît raisonnable de vouloir absolument lancer le championnat?
Ouais, ça dépend de quel point de vue. Du point de vue sanitaire ou du point de vue économique? Parce que c'est aussi ça l'enjeu.
Du
en
point
fait.
De vue plus sanitaire. Économiquement, effectivement, on comprend pourquoi il y a cette volonté. Je pense qu'il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Du point de vue sanitaire, est-ce que vous pensez que... voilà, ils ont raison de... que les conditions seront réunies pour que ça se passe correctement. Encore une fois, j'ai conscience de la difficulté des questions que je vous pose et j'attends pas forcément un oui et un non. J'essaye de lancer la discussion.
Moi, ce serait un non catégorique. La F1 n'est pas prioritaire juste sur le plan sanitaire. Vraiment, pour le coup, d'un point de vue purement sanitaire, je trouve que c'est aujourd'hui, ça fait partie des choses qui ne sont pas prioritaires. Voilà, donc vraiment sur le plan strictement sanitaire, pour moi, non.
Mais c'est très difficile à répondre parce que est-ce qu'il y a un risque? Oui, il y a un risque. Mais est-ce qu'on saura passer à côté du risque? Bah, c'est possible, quoi. Mais on ne le saura pas tant qu'on ne l'a pas fait, je pense. Même malgré tout ce qui sera mis en place, et si c'est mis en place, parce que ça me semble aussi, le plan de la biosphère me paraît hyper ambitieux, mais si malgré ça, on arrive à mettre ce plan-là en place, il y aura toujours un risque. Le risque ne sera jamais zéro, quoi. Mais ouais, c'est...
Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, de toute façon, le risque sanitaire, il sera toujours là. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre la société entière sous cloche jusqu'à l'arrivée du vaccin? C'est compliqué. On ne peut pas dissocier le risque sanitaire de des problématiques économiques.
Y a un risque en termes d'image derrière aussi. C'est-à-dire que, admettons, ça se passe mal au premier Grand Prix. Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre sur la F1? Et c'est ça aussi. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et même en termes d'exemplarité. Comment est-ce que tu vas vouloir inciter des gens à respecter des gestes barrières si on relance des activités qui sont des activités... Alors, on est bien d'accord qu'on n'est pas sur une activité qui est économique, hein, on est plus sur un sport. Hein. Mais si on revoit des Grands Prix, etc., comment est-ce que tu vas pouvoir justifier que les gens n'aillent pas se balader dans les parcs, n'aillent pas faire des courses de vélo ou ce genre de choses? Ça va quand même être très compliqué. Quel moyen de pression tu auras par rapport aux fédérations sportives amateurs qui, elles, ont vraiment le couteau sous la gorge dans l'urgence? Parce que là, on parle de péril économique. Ok, on parle de péril économique, mais on parle quand même de grosses structures qui ont, pour certaines, je ne parle pas des écuries de Formule 1, mais je parle des sponsors, je parle de la F1 en elle-même, je parle des chaînes de télévision, qui vont réussir quand même à encaisser ça, qui vont avoir des plans. Comment tu vas justifier que le petit club de karting, lui, il ne peut pas se réunir? Enfin, c'est quand même très compliqué, hein. En termes d'image et en termes de décision, c'est compliqué, je trouve.
En termes d'image, je suis d'accord avec toi, il y a un vrai risque. Cela dit, faut signaler que la Formule 1 ne sera probablement pas le premier sport automobile majeur à reprendre. Aux États-Unis, là, ils ont des plans en place bien précis. La NASCAR reprend dans une semaine, l'IndyCar reprend début juin. L'IndyCar,
c'est le 6 juin
au Texas.
Le 6 juin, d'accord. Okay.
Ouais. Et la NASCAR, ouais, la semaine prochaine à Darlington avec deux meetings en 3 jours.
Mais l'IndyCar et la NASCAR, on parle aussi d'un championnat, enfin de deux championnats qui sont quand même des championnats qui se baladent beaucoup moins que la F1 aussi.
Ah oui, les contraintes sont différentes, on est d'accord. Ouais.
Après, je pense que c'est tellement compliqué et je pense que quoi qu'il arrive, ils vont s'en prendre tellement plein la gueule, quoi qu'il arrive. Enfin, moi, j'ai juste envie de leur dire, celui qui prendra la décision, enfin, ou plutôt ceux, parce que personne ne prendra la décision seul, mais ceux qui prendront la décision de recommencer ou pas les courses, c'est une décision qui va être tellement compliquée, à mon avis, qu'on pourra juste leur dire bravo, quoi, d'avoir essayé, même si c'est... Enfin, s'il y a des morts de Corona à cause de la F1, ce sera compliqué de dire bravo, mais dans tous les cas, il aura fallu prendre une décision et ça va être... Enfin, franchement, je me mets... À aucun moment, j'aurais aimé être à leur place dans cette situation-là, quoi. Ça va être tellement compliqué. Et c'est là aussi que ta question est hyper compliquée, Gus Gus, quoi, parce que... S'ils reprennent
c'est,
pas.
C'est au niveau du podcast, hein, moi je
ouais, c'est
moi,
ça.
Trucs, ouais. C'est bien, vous répondez bien, moi je trouve.
S'ils reprennent pas et qu'il y a des. Ça va être le running gag du soir. Ça.
Oui.
S'ils reprennent pas et qu'il y a des écuries qui meurent, on pourra toujours leur reprocher. On pouvait mettre en place des situations pour reprendre le truc. Et s'ils reprennent et qu'au final ça se passe mal, on leur dira on pouvait encore attendre. Quoi. Donc, dans tous les cas, je pense que. Ça va être très difficile pour eux, quoi.
Mais c'est pour ça que, enfin, la question, elle est compliquée aussi parce qu'on sait très bien que c'est pas la motivation première, c'est pas une motivation sanitaire. Aujourd'hui, la motivation première, ça va être le business, ça va être de sauver ces écuries parce qu'elles sont menacées, de sauver les milliers, les dizaines de milliers d'emplois qu'il y a, de sauver le championnat, un championnat qui a plus de 60, enfin qui a 70 ans cette année. C'est clairement ça la motivation. La motivation, elle est pas sanitaire. C'est pas un championnat c'est pas un sport, c'est pas une entreprise d'être motivé pour des raisons sanitaires. Ce sont les États qui vont fixer. C'est d'ailleurs, je pense, le problème pour un championnat comme la Formule 1, c'est que un championnat comme la Formule 1, aujourd'hui, nécessiterait d'avoir des décisions qui soient des décisions supranationales. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune décision supranationale. Même l'OMS, aujourd'hui, n'a pas l'autorité pour pouvoir faire un blackout sur les manifestations sportives. Donc, tous les championnats avec des enjeux internationaux sont confrontés à la même problématique. C'est-à-dire que, au final, c'est nous qui devons décider, puisqu'on va faire en fonction des États qui nous ouvrent les portes. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, si, admettons, je peux aller en Allemagne, je vais aller en Allemagne parce que je peux y rouler, que ça me permet de maintenir mon business. Aujourd'hui, ce n'est pas à la F1 de se poser la question du sanitaire.
Oui, mais si dans le cadre de la F1, il se passe quelque chose, c'est sur eux que ça va retomber aussi.
Ah, tout
quoi.
À fait. Je suis tout à fait d'accord.
Parce qu'au final, sur l'Australie, dans le monde de la F1, on met très peu en cause la F1. Quoi. Et même les acteurs de la F1, on met très peu en cause l'Australie. Et même les acteurs de la F1 plus ou moins éloignés critiquent les dirigeants de la F1 pour ce qui s'est passé. Quoi. Donc je pense que ce sera pareil pour chaque Grand Prix qui essaiera d'avoir lieu. Hein.
Alors justement, les Grands Prix qui essayent d'avoir lieu. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc on veut avoir entre 15 et 18 courses. Forcément, il y a des Grands Prix déjà annulés comme l'Australie, comme la France, qui reviendront pas au calendrier.
Monaco.
Monaco aussi, effectivement. On sait que pour se rendre sur un Grand Prix de Formule 1, pour organiser un Grand Prix de Formule 1, il faut un circuit qui soit homologué. J'ai face à moi la liste des circuits homologués au 14 octobre 2019. J'ai pas trouvé plus récent.
Déçu.
Forcément. En même temps, je vais chercher 30 secondes. Donc parmi ceux, je vais essayer de scanner un peu cette liste et de vous dire parmi ceux qui n'étaient pas censés être au calendrier, ceux qu'on pourrait retrouver. Alors déjà, il y a 5 tracés qui sont homologués à Bahreïn, y compris donc le tracé actuel, y compris le tracé de 2010 avec la course chiante à mourir, et 2 circuits un peu plus intermédiaires, mais bon. Il y a Buriram en Thaïlande. Il y a deux tracés sur le circuit international de Dubaï. Il y a Fiorano. Alors, Fiorano, ça, je suis très étonné parce qu'il y a quand même... Fiorano, je suis très étonné parce que normalement, il y a une limite de longueur. Le circuit de Fiorano, il fait 2 km 976. Or, normalement, c'est 3 km et demi minimum. Bon, on sait que c'est une limite qui ne tient pas, notamment à Monaco, puisque le circuit de Monaco fait 3 km 337. Et qu'un des tracés de la liste de Bahreïn fait 2 km 554. Donc bon, la FIA ne respecte pas tout le temps forcément ses propres règlements.
Ouais, mais c'est Fiorano, Ferrari, les passes droits.
Ça passe, c'est bon. Je reprends, il y a le Fuji Speedway.
Génial.
Il y a Hockenheim, alors Hockenheim qui s'est positionné, Il y a Imola qui s'est positionné aussi. Il y a le circuit routier d'Indianapolis. Eh oui, ça je m'y attendais pas. Il y a Jerez, il y a la Corée, qui pourrait faire son retour, ce serait rigolo. Il y a le Kuwait Motor Town, donc à Koweït. Il y a Manicourt, il y a le Moscow Raceway, en Russie, du coup, à Moscou. Il y a Motorland Aragon, il y a le Mugello, il y a le Nürburgring, il y a Sepang. Forcément, on sait aussi qu'il y a eu un changement récemment à la tête du circuit et qu'ils auraient déclaré, je crois qu'on en a parlé à la dernière émission, en tout cas on en a parlé si ce n'est dans la dernière émission en privé aussi, à la tête du circuit, le dirigeant aurait déclaré que ce serait bien, peut-être pas tout de suite, mais que la F1 revienne en Malaisie. Et il y a le circuit Ricardo Tormo à Valence. Pas le vieux circuit qui est à l'abandon en ville, mais le circuit à côté.
Celui où il y a la MotoGP. Hein,
oui, c'est exactement. Où il y a les
Portimao,
tests
il n'est pas...
Portimao n'est pas dans la liste.
D'accord, ça m'étonne.
Alors, il n'est pas dans ma liste, après, peut-être que... Mais effectivement, c'est étonnant aussi.
Il va y avoir Estoril au Portugal, par contre.
Ben, il n'est pas dans la liste non plus. Alors après, j'ai la liste des autres. Ça, c'est les circuits grade 1. Est-ce qu'ils sont pas en grade 2 Donc, si je fais Portimao... Alors, Portimao, je ne le trouve pas. Alors après, c'est Circuito International du Algarve.
Ah bah, ça doit être ça. Oui, non, c'est ça, c'est ça.
Ah, c'est celui-là, ouais.
Ouais, mais je le trouve pas dans aucun... sachant que aussi on est dans une situation un peu exceptionnelle où je pense que les émissaires de la FIA peuvent pas aller mettre à jour les... revisiter les circuits, quoi. Les homologations, elles ont des dates de fin. D'ailleurs, je pense que dans les circuits que vous avez cités, il y a des homologations qui ont dû arriver à terme. Bah, notamment, voilà, Dubaï, Abu Dhabi. Alors Abu Dhabi, c'est un peu bizarre parce que c'est le 31 octobre 2019, or il y a eu le Grand Prix juste derrière, donc j'espère que ça a été renouvelé quand même. Bon, on va peut-être pas passer non plus toute la soirée là-dessus, parmi tous ceux que je vous ai cités, qu'est-ce que un vous semble plausible et deux vous à titre personnel vous voudriez voir au calendrier?
Mais juste pour compléter, selon Wikipédia, il est bien degré 1 à Portimao.
Bon.
Mais ce qui me semble possible, plausible en tout cas, c'est déjà les circuits qui manifestent de l'intérêt.
Oui.
Ça me paraît logique. Après, c'est vrai que Dino en parlait tout à l'heure, la saison en Asie paraît une bonne idée. Est-ce que la Thaïlande a vraiment envie de réaccueillir la F1 tout de suite, d'autant plus que ce sera peut-être... Enfin, en Asie, je ne sais pas quelle est la situation exacte, mais possiblement sans spectateurs. Donc pour la Thaïlande, ça paraît compliqué, mais pour la Corée, j'imagine que le circuit, je sais pas si quel point il est entretenu aussi.
Il y a peut-être des trucs dans les frigos.
Ouais.
Là, à l'époque, il n'était pas entretenu déjà.
Ouais. Après, moi, c'est un circuit qui me ferait plaisir parce que c'est un circuit que j'aimais bien et puis ça permettrait de le retrouver dans les jeux de F1 aussi.
Ils ont peut-être construit la ville maintenant.
Ouais. Des immeubles sur la piste maintenant. C'est un circuit, c'est vrai, un vrai circuit en fait, urbain. Mais pourquoi pas un Bahreïn avec un circuit, avec un tracé différent pour le coup. Mais
oui, parce que contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, Silverstone, il y a qu'un seul tracé qui est homologué aussi. le tracé habituel, quoi.
Il y a Boud aussi.
Maintenant, comment ?
Il y a Boud aussi en Inde.
Bah, il est pas sur ma liste, encore une fois.
Sur Wikipédia, il y est. Tout comme un circuit en Finlande.
Ma liste, c'est une liste quand même avec le logo FIA.
Bah nous, on a le logo Wikipédia.
Voilà, attends.
Excusez-moi. Non, je me plie. Je vais essayer de chercher sur le site de la FIA.
Bon, Istanbul, après... il est plus homologué ?
Istanbul, je l'ai pas non plus, non.
Ah, il était beau, dommage.
Mais ouais, le plus possible, mais le problème, c'est que Bahreïn est déjà casé au chausse-pied en fin de championnat. Donc si on doit faire 2 semaines de suite à Bahreïn, ça paraît compliqué. Mais bon, en termes de tracé, je pense que c'est peut-être une possibilité très intéressante du point de vue de la F1. Quoi.
McLovin, Dino ?
Bon, Hockenheim, je le sens bien. Même si le stadium vide, ça va faire bizarre.
Bon, il a déjà été vide avec la F1 aussi.
Oui, et puis c'est pour voir Vettel se tanker, ça sert à rien. Non, moi je regarde un peu la liste. Mais il y a forcément des circuits qui font envie. Le circuit de Portimao, c'est un circuit que moi, depuis très longtemps, j'ai envie de voir en F1. En plus, il se trouve que le Portugal est l'un des pays d'Europe qui tient le mieux. Donc ça pourrait être intéressant. Voilà, après oui, bah, les, je suis d'accord, la Corée, l'Inde, ça peut être sympa. Mais en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à me projeter. Ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est... Je déborde du débat, mais c'est effectivement le fait d'avoir des homologations possibles. Bahreïn, pour le coup, bah, l'intérêt, c'est qu'on peut effectivement faire 2 Grands Prix de suite sur le même site, mais avec 2 tracés différents. Parce que le problème de fond, moi, aujourd'hui, c'est on va courir 2 fois en Autriche. Bah, ok, on va courir 2 fois en Autriche, mais il n'y a pas de raison que les performances elles soient vraiment différentes des 2 Grands Prix. Donc, si c'est pour voir quasiment, on ne verra pas 2 fois même Grand Prix, mais la hiérarchie restera la même, ça m'enthousiasme pas des masses quoi. Par contre effectivement peut-être cette saison ça va être difficile, peut-être que ça peut être possible d'homologuer ils ont bien homologué la Corée 2 ou 3 semaines avant, donc ou genre le jeudi, mais voilà, pourquoi pas à l'avenir en tout cas homologuer plusieurs configurations sur un même circuit, justement en tirant l'expérience de ce qui a été fait.
Mais d'un côté c'est vrai que c'est pas forcément enthousiasmant de se dire qu'il y aura 2 fois le même Grand Prix entre guillemets, mais ce serait quand même un test intéressant, je trouve, à faire de voir en une semaine d'écart ce que peut apporter. Bon, après, il faut aussi que les conditions météo soient exactement les mêmes, mais de voir à quel point ça peut changer d'une semaine à l'autre sur un même circuit avec plus ou moins les mêmes conditions, juste pour curiosité.
Oh, ça ne se fera pas, mais ce qui pourrait être sympa, c'est 2 fois le même circuit, mais avec des allocations de pneumatiques différentes, emmenées par Pirelli. Ça se fera probablement pas pour des raisons logistiques, mais ouais, ça pourrait un peu épicer le truc. Et
même, je pense que Pirelli pense à son truc en se disant, on amène nos pneus selon le meilleur choix. Donc, amener 2 allocations différentes, ça voudrait dire que le choix n'est pas optimal pour un des 2 Grands Prix.
C'est vrai aussi.
Et pour revenir à Portimao, il a apparemment reçu en avril 2020 le grade 1.
J'ai remis une... Alors avant, parce que j'ai remis la main sur une liste mise à jour au 2 mars 2020. Et effectivement, il y a le tracé de l'Algarve, il y a Estoril et il y a le circuit de Boud aussi. Il y en a d'autres qui ont disparu, comme le circuit de Valence. Mais bon, on sait que c'est... Enfin, on voit pas pourquoi ils pourraient pas être réhomologués. Il n'y a pas eu de gros changements sur ces circuits-là. Voilà. Est-ce que sur l'aspect calendrier, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
On en reparlera dans un mois quand il sera très différent de ce qu'on.
Ouais.
Ouais, pour l'émission numéro 7. Ok, on va passer à une partie un peu plus axée sur le règlement. Alors, évidemment, la FIA fait un peu tout pour garder un peu les écuries à flot. On reviendra dans un second temps sur les aspects un peu plus économiques de l'actualité. Déjà, pour ce qui a été entériné, la trêve estivale, entre gros guillemets, avait déjà été déplacée, effectivement, dans la période actuelle. Elle avait été étendue dans un premier temps de 14 à 21 jours. Puis à 35 et actuellement à 63 jours. Donc deux gros mois calendaires. Donc elle est toujours en cours actuellement, me semble-t-il. Il y a une petite exception pour du travail de longue durée de recherche et de développement, mais qui est limitée à une dizaine de personnes et qui est fortement encadrée par la FIA. Donc, et c'est la même chose pour les motoristes également. Voilà, donc bon, j'imagine que c'est une décision que vous... Enfin, moi, c'est une décision que je trouve plutôt logique. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'étendre le shutdown ?
Bah, c'est doublement logique en fait. C'est logique à la fois par rapport au contexte, mais c'est aussi logique par rapport à l'ambition. Enfin, on regarde les autres modifications qui ont été annoncées, de ne pas permettre aux équipes qui le peuvent de travailler, parce que même s'il y a une interdiction de travailler sur le développement de la voiture 2022 maintenant, mais voilà, c'est aussi, il y a aussi cette logique là, quoi.
Alors, parmi les autres restrictions qui ont été décidées, déjà, il y a la décision, alors là aussi, il faudra peut-être voir comment ce sera mis en place dans les faits, mais l'interdiction pour les écuries de développer leur voiture de 2022. Donc, on vous ramène à la dernière émission où la FIA avait annoncé que le règlement 2021 était reporté à 2022. Et ces voitures-là ne pourront pas être davantage développées cette année. Voilà, il faudra attendre 2021 pour continuer le travail sur ces voitures-là.
Elles seront donc développées sous régime de plafond budgétaire.
Complètement, effectivement. Alors c'est...
Après, je pense qu'il y a une partie des voitures 2022 qui ont déjà été développées, quoi.
Oui.
Enfin, du moins du côté des grosses équipes.
Mais ça sera moins la course à l'armement que cette année, quoi.
Ouais. Après, est-ce que la FIA a vraiment un contrôle total de ce qui se passe dans les usines au point de savoir tout ce genre de petits détails ?
Ils surveillent les mails.
Ah, bah, ils surveillent déjà la quantité de travail dans les logiciels de dynamique des fluides, dans les souffleries. Ce sera relativement, je pense, évident de voir qu'un modèle qui est testé, c'est un modèle 2022 ou un modèle 2021, quoi. C'est... après, faut voir quelles ressources ils vont y mettre là-dedans. C'est toujours pareil, hein. S'il y a un contrôle en 6 mois, bah forcément, ça sert à rien, quoi. De toute façon, de base, une des bases d'un règlement ou de quelque chose de contraignant, tu ne peux pas interdire quelque chose que tu ne peux pas vérifier. Donc j'imagine, j'ose espérer, je touche du bois, que s'ils mettent des restrictions en place, il y aura les vérifications qui permettront de faire en sorte que ce soit juste pour tout le monde, quoi.
Après, c'est des contrôles qui sont mis dans un... Enfin, des interdictions qui sont mises dans un contexte aussi un peu particulier aussi. Ouais, c'est quelque chose qui a été fait, peut-être pas avec précipitation, mais en tout cas avec hâte pour bloquer un peu tout ça. Donc, c'est pas comme si la décision avait été mûrie pendant des semaines, voire des mois, avant d'arriver à tout ça. Mais bon, après, même si ça a été fait un peu précipitamment, il y a moyen de travailler pour rattraper ce retard en termes de contrôle. Puis ça te fait. Mais bon, sur le fond, la décision est bonne, quoi. Enfin, y a rien à dire. Ça paraît tout à fait logique. D'autant plus qu'il y a des usines qui ont dû fermer ou qui sont passées à d'autres activités comme Mercedes ou Ferrari qui ont développé des respirateurs ou des trucs comme ça. Donc ça paraît tout à fait logique comme décision de ne pas d'appliquer une règle qui l'est déjà pour certains d'office, quoi.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu dans ce cadre-là, pour faire une petite un aparté pour faire cet aparté, de toute façon, là, comme
ouais.
Ça, tranquille. On se retrouve dans une situation où il y a du personnel de Renault qui va travailler dans l'usine Red Bull.
Oui.
Ah, j'avais pas vu ça.
C'est quelque part un petit peu cocasse.
Dans quel contexte ?
Bah pour la fabrication de respirateurs. Ouais.
Ah, ok.
Ouais. Ce qui serait, je crois que la déclaration exacte, c'est impensable de penser ça en temps normal, quoi.
Ouais.
De manière générale, on a parlé de ce que faisait la F1 sur le calendrier. Moi, ce que je suis quand même rassuré, c'est de voir ce que la F1 fait en dehors du calendrier. C'est-à-dire que le calendrier, c'est accessoire, c'est cette saison-là. Ils essayent, je pense, par le biais du calendrier, de sauver un peu les meubles de la saison. Mais on voit quand même qu'il y a un énorme travail qui est fait pour essayer de sécuriser une prise de conscience, du coup, de l'urgence et du danger, de sécuriser favoriser quand même au maximum possible les écuries dans leur développement et dans leur avenir. Voilà, il y a eu, je pense que tu vas en reparler, mais il y a un ensemble de décisions sur le budget, etc. On voit vraiment que de ce côté-là, ça fait des progrès qu'on n'imaginait pas du tout. On en parlait là de Renault Red Bull, mais il y a des choses qu'on n'imaginait pas du tout pouvoir se produire et que le Covid, malgré tout, donne l'opportunité d'avancer de façon assez stratosphérique dans ces sujets-là. Et pour le coup, voilà, moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus et qui me rassure le plus sur l'avenir de la Formule 1. Même s'il y a des incertitudes, on a quand même le sentiment que notre sport est quand même en train de préparer l'avenir. Plus que de regarder un peu l'urgence, mais vraiment de préparer l'avenir et d'essayer de se pérenniser sur les prochaines années, quoi.
Est-ce qu'on rattrape pas en même temps des années de ne pas avoir voulu voir les problèmes en face aussi? Forcément, on va reparler des budgets capés. C'est quelque chose qu'on voulait mettre en place, mais dont on parle depuis. Enfin, c'est un vieux serpent de mer. On en parle depuis 10, 15 ans de cette chose. Visiblement, ça allait se mettre en place, Covid ou pas. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a la structure un peu plus équitable de répartition des revenus de la Formule 1 vers les écuries. Est-ce que ces choses qui arrivent bien, ces décisions qui sont enfin prises dans le contexte actuel, est-ce que c'est pas la démonstration qu'il aurait fallu les prendre avant? Est-ce que c'est pas un peu trop tard? On a fait la remarque lors de la dernière émission d'Ino, effectivement, que enfin les choses avançaient dans ce qui nous semblait, et encore je veux pas généraliser à tout le monde, mais dans l'opinion des chroniqueurs qui étaient présents la dernière fois, plutôt généralement que ça avançait dans le bon sens. Est-ce que c'est pas montre aussi qu'il y a eu trop d'immobilisme ces dernières années?
Mais ça, c'est valable dans tout un tas de domaines. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que ce soit fait. On sait très bien. Personnellement, j'ai un regard, par exemple, sur Jean Todt. Je pense que Jean Todt est un président de la FIA qui est très tacticien et qui a compris, qui sent les choses et qui a compris qu'à un moment donné, lui, il était confronté à une F1 avec laquelle il allait devoir composer, où il y avait les équipes qui avaient pris le pouvoir, et qu'à un moment donné, il fallait qu'il soit prêt à saisir l'opportunité. Je pense très clairement que le Covid est cette opportunité d'une reprise en main des instances et de sifflement la fin de la partie, tout comme dans d'autres domaines, c'est aussi l'occasion de reprendre en main la gestion des hôpitaux ou ce genre de choses et de remettre les choses à plat, alors que ça fait 20 ou 30 ans qu'on dit que ça doit être remis à plat. Ou dans l'éducation nationale, sur un thème comme le télétravail, voilà, le télétravail, ça fait 10 ans que le télétravail, il y a plein de personnes qui le sollicitent dans leur entreprise, c'est long à se mettre en place, etc. Tout le monde s'est mis au télétravail. Nécessairement, tous ceux qui ont milité pour le télétravail avant, ça justifie le fait qu'on aurait peut-être dû le mettre avant pour être prêt. Ce qui compte, c'est de décider au moment où ça se produit et de prendre les bonnes actions. Et là, aujourd'hui, il y a une reprise en main. Et même, ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'est pas une reprise en main, mais c'est à un moment donné les équipes qui disent ok, là maintenant nous on peut plus donc on lâche du lest, quoi, parce qu'ils ont pas le choix, ils ont d'autres priorités et ils confient enfin à nouveau la gestion des choses à des acteurs dont ils ont quand même pas mal sapé l'autorité ces dernières années, quoi.
Alors là où je te rejoins et où je rapproche ça d'un fait d'une information qui a été publiée et annoncée par la FIA, c'est désormais la possibilité pour la fédération de prendre des mesures exceptionnelles dans des circonstances particulières, en dehors des réglementations existantes, pour être en capacité de préserver des championnats. C'est désormais quelque chose qui existe dans les règlements de la FIA et de la Formule 1. Pour notamment sortir des unanimités et pouvoir prendre des décisions.
Mais ça, c'est, ouais. Quelque part, c'est incroyable, quoi. On est en train de nous dire que enfin la fédération décide de comment gérer le sport, quoi. J'ai pas spécialement envie de l'applaudir, quoi. C'est ce retour à la normale, quoi. C'est à la FIA de diriger ce sport, quoi. Alors que depuis des années, effectivement, on laisse aux écuries le soin de décider, mais évidemment, elles décident pour leur propre intérêt, donc elles se tirent dans les pattes. Moi, je veux pas ça parce que ça m'arrange pas. Donc, on met enfin un terme à une situation qui, pour moi, était absurde.
Moi, j'ai peur justement que tout ce qui est en train d'être fait en ce moment ne va pas être défait aussi à un moment. Dans la phrase que tu as dit, Gus Gus, c'était des décisions exceptionnelles dans des circonstances particulières. Est-ce que dans les 50 ans à venir, on aura des circonstances pareilles pour que la FIA puisse prendre des décisions comme elle le veut je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que la FIA, à la sortie de cette crise, va pouvoir prendre n'importe quelle décision, n'importe comment.
Après, c'est suffisamment vague. Alors, je ne retrouve pas les intitulés exacts et les règlements qui ont été modifiés de manière précise. Mais dans mes souvenirs, c'était suffisamment... c'est comme l'histoire sur la sécurité où il y a eu certains championnats au début des années 2000 où la FIA brandissait certaines menaces de changement de règlement en faisant passer un peu tout et n'importe quoi sur le dos de la sécurité parce que c'est un domaine dans lequel la FIA a les coudées franches, elle peut changer les choses sans trop demander leur avis à Pierre, à Paul ou à Jacques. Je pense qu'on est dans le même cas de figure là aussi. Après tout, qu'est-ce que ça veut dire sauvegarder un championnat ? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre des mesures exceptionnelles ? Voilà.
Essayez de retrouver les mots exacts.
Il y a un enjeu aussi, c'est que si je ne me trompe pas, les accords Concorde prenaient fin cette année et devaient être négociés cette année. Alors, oui. Je ne sais pas comment ça va se... Ils sont toujours en cours. Je ne sais pas comment ça va se goupiller dans cette situation-là. Mais très clairement aussi, là, pour le coup, le moment est opportun parce que c'est aussi en grande partie dans le cadre de ces accords Concorde que la répartition des rôles et des pouvoirs se fait. Et si ça se négocie en ce moment, c'est plutôt bien. Parce que ça veut dire potentiellement sur les 5-6 prochaines années, le document cadre qui va régir un peu la manière de se comporter de tout le monde, la répartition des pouvoirs, etc., aura été fait dans le contexte actuel où, très clairement, les écuries ont conscience, même les plus grosses, ont conscience que l'avenir du championnat est en péril et qu'il y a une forme de mobilisation générale. Donc, évidemment qu'il y aura un retour, tout comme dans les autres domaines, hein, il y aura un retour et ceux qui étaient puissants avant vont essayer de reprendre le pouvoir et les écuries et la FIA a dû lâcher du lest aussi parce qu'à un moment donné les écuries étaient beaucoup plus puissantes et elles ont pris un pouvoir économique, un pouvoir en communication et au final la FIA n'a pas eu le choix et aujourd'hui on est fragile donc du coup la FIA c'est quand même l'instance, c'est ce qui survivra en fait quoi qu'il arrive aux écuries et qui survit toujours aux écuries, donc nécessairement son rôle se revalorise et regrandit en ce moment, même si il est prévisible que ça redescende. Mais mine de rien, entre temps, il y aura eu le budget capé, il y aura eu quand même certains gels, il y aura eu aussi quelque chose qui a été très marquant. Il y a des leaders aussi qui vont peut-être émerger. Il y a peut-être dans l'opinion publique aussi des attentes qui vont évoluer. On ne sait pas ce que va devenir aussi les attentes mondiales autour de ça. Donc voilà, il y a quand même des choses qui font qu'on peut se dire ça va quand même être assez difficile de prendre le pouvoir. De reprendre en tout cas le même pouvoir et le même pouvoir d'immobilisme que ce qui était avant.
Alors, si vous me permettez quelques précisions, donc concernant la Formule 1 en particulier, dans le règlement 2021, il y a désormais l'article 1.3 du règlement technique, je pense, hein, qui permet des changements un peu plus flexibles à partir du moment où il y a 60% de support parmi les équipes et non plus une unanimité. Et donc, comme je le précisais cette fois-ci de manière plus générale dans le cadre de tous les championnats FIA, dans le code sportif international de la FIA, il a été rajouté une clause qui dispose que dans des circonstances exceptionnelles, si la FIA considère que les changements en question sont essentiels dans la sauvegarde du championnat, de la coupe, du trophée, etc., etc., en question, il n'y a besoin que de l'accord de la majorité des compétiteurs pour prendre des mesures. La majorité suffit en tout cas pour prendre des mesures dans des courtes périodes. On short notice quoi. Enfin,
moi, je pense que c'est plus la clause sur le règlement de la F1 directement qui va impacter parce que à partir de la sortie de la crise, dans des circonstances exceptionnelles et si la FIA considère que le changement en question est essentiel à la sauvegarde du championnat, Faudra déjà y aller pour la sortir, cette clause, à mon avis, et que tout le monde l'accepte sans broncher, quoi.
Moi, ça me paraît suffisamment vague pour qu'on la dégaine un peu quand on a envie.
Oh, mais si c'est assez vague pour que tu la dégaines quand on a envie, c'est assez vague aussi pour que quelqu'un la conteste aussi. Donc, après, je sais pas dans quelle mesure c'est contestable du point de vue des constructeurs, mais...
Ouais, ça fera l'objet d'un accord privé.
Ouais, c'est ça.
Non, on avait dit non, pas Ferrari.
Mais du coup, ils ont toujours leur droit de veto, Ferrari ?
Dans un sens, j'ai envie de te dire que oui, mais dans l'autre...
Non.
Non.
Voilà, t'en fais ce que tu veux.
Merci de tes précisions.
Bah écoute, avec plaisir. Non, mais c'est un peu contradictoire du coup, puisque d'un coup, on te dit que il y a besoin que de 60% des votes pour valider une décision, et de l'autre côté, bah t'as Ferrari qui a contractuellement parlant, des passes droits. Donc je peux pas te répondre avec certitude. Mais n'hésite pas à envoyer, j'ai d'ailleurs des timbres sous les yeux, un courrier à Jean Todd qui te fera un plaisir de te répondre.
Place de la Concorde.
8 Place de la Concorde.
Voilà.
75 008 Paris, CEDEX.
Mais ce droit de veto, il figure où dans les accords Concorde qui sont actuellement en cours, hein?
Oui, il figure dans les accords. D'accord. Alors, avant, on parlait d'accord Concorde. Maintenant, il n'y a plus d'accord commercial tripartite entre Liberty, la FIA et toutes les écuries. Il y a des accords bilatéraux entre toutes les parties un peu incluses.
Autant dire que l'accord avec Ferrari...
il est béton.
Oui.
Bah déjà, quand tu sais qu'ils prennent 62 millions de dollars sans rien faire, bon, ben voilà quoi.
Ah, mais justement, oui. Ça va être mis en cause, ça.
Ça devrait. Alors... Après, il en restera une petite portion, si je me souviens bien, les dernières infos qu'on a eues.
Ça devrait, mais pas forcément, parce que là encore aussi, ça devrait, mais mine de rien, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que Mercedes se barre, que Renault se barre, que Honda se barre, et que Ferrari reste. Parce que on sait très bien aujourd'hui, par exemple, que ce qui fait le plus de mal à Ferrari aujourd'hui économiquement, c'est la F1, parce que ils vendent ni plus ni moins de Ferrari que sans Covid. Mais voilà, donc du coup, Ferrari, eux, ils restent, et c'est peut-être là justement ce qui leur donnera du poids, ça sera de dire dans les négociations, de dire oui, mais nous, on sera toujours là dans 2 ans. Est-ce que vous pouvez dire la même chose des autres? Est-ce que du coup, il n'y a pas intérêt, dans l'intérêt justement de préserver le championnat, de nous donner, nous, un peu plus de pouvoir pour éviter que on se retrouve avec des décisions qui soient prises, même par Red Bull. On n'est pas à l'abri que Red Bull, à un moment donné, disent, nous, économiquement, c'est plus possible, on se barre. Et il y a 2 équipes sur le carreau. Sauf que Red Bull a quand même souvent des prétentions à dicter un peu les articles de règlement. Donc je pense que dans les négociations, ça peut tenir.
C'est dingue, c'est ceux qui ont dit que tous les 2 mois qu'ils allaient partir, qu'ils vont finalement dire on va rester pour gagner des accords, quoi.
Mais c'est justement parce qu'ils disent que c'est les seuls qui peuvent menacer de partir, parce qu'ils savent très bien que non, tout le monde sait très bien qu'ils seront là, que voilà, ça fait partie de leur aura, ça fait partie de leur gène, ça fait partie de ce petit jeu habituel, c'est un petit moyen de pression. Et voilà, Ferrari, c'est la caution historique du championnat. Ils ont surmonté tout un tas d'obstacles. Quand on regarde un petit peu historiquement Ferrari, ils ont connu des grands moments de creux où ils ont eu des raisons de partir et ils sont restés. À l'inverse, on regarde certaines écuries, des grandes écuries. Prenons Williams, prenons McLaren. Bah mine de rien, Williams et McLaren, c'est des écuries qui ont 20 ans d'historique de la F1. Mais jusqu'aux années 70, Ferrari, McLaren et Williams, c'est pas vraiment des grands noms de la F1. La continuité, là où Ferrari est toujours resté, quels que soient les règlements, etc., ça leur donne un pouvoir très important. Une crédibilité, en tout cas. Et une légitimité.
En parlant de Ferrari, moi, je voulais dire, j'adore les chevals.
Ouais, messieurs, une petite précision avant de poursuivre. L'histoire des 60%, je viens de regarder dans le règlement de manière précise, elle ne s'applique que sur certains articles du règlement sportif. Alors certains, il y a une liste longue, je ne vais pas forcément la détailler, je vous invite à aller voir les règlements qui, je le rappelle, sont disponibles publiquement sur le site de la FIA, FIA.com. Mais donc sur la majorité du règlement, il y a encore besoin d'unanimité pour changer le règlement sportif. Voilà, je me permettais de faire cette précision. De quoi n'entend pas parler niveau réglementaire ? Oui, petite info qui est passée aussi lors de ce mois d'avril, c'est on reparle tout d'un coup des systèmes de jetons. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'ère hybride, le développement des moteurs était encadré par des systèmes de jetons. C'est-à-dire que si vous vouliez changer, je sais pas moi, l'échappement, c'était 3 jetons de développement, sachant qu'il y avait un quota par motoriste pour limiter la recherche et développement, en tout cas le nombre de changements sur les moteurs. Et donc on parle, même si ce n'est pas quelque chose d'annoncé, d'un même système équivalent pour le développement des voitures pour 2020 et 2021. Vous avez 4 heures.
Bah, je comprends la logique économique derrière cette idée. Ensuite, le problème, c'est que ça fige les rapports de force.
Quentin, Dino ?
Après, pour revenir sur ce que tu as dit, parce que moi, j'ai pas du tout vu passer cette actu, et c'était sur moteur et châssis, ou c'est uniquement les moteurs pour les jetons ?
C'était les châssis.
Ah, ok. Donc les moteurs ne sont pas...
Je parle à pêche aux infos. Plus. Alors, les motoristes, déjà, ils sont aussi, et pour la première fois, impactés par le shutdown actuel.
Ouais.
Là, j'essaye de combler le vide pour...
Ouais. Après, effectivement, si c'est que sur les châssis, est-ce qu'il vaut mieux pas un peu immobiliser l'ordre actuel des choses, quitte à sauver... là aussi, en 2014, c'était aussi pour des raisons budgétaires, mais
oui.
Est-ce que...
D'ailleurs, ça a rapidement, au bout d'une ou deux années, ça a rapidement été, été supprimé. D'autant plus que c'était accompagné d'un système de gel qui, là encore... c'est en sorte que de plus en plus de parts des moteurs étaient gelées d'année en année. Bon, ça a volé en éclats aussi.
Ça me paraîtrait un bon deal pour 2020, mais pour 2021, si on a le règlement financier qui s'applique dès 2021, ça risque de faire répétition, quoi.
Alors justement, on va partir, bien sûr. On va partir dans les hôpitaux. On va passer sur un volet un peu plus économique de l'actualité, puisque forcément tout ça a des impacts sur les ressources financières des écuries. Alors tu as parlé des budgets capés, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. On avait d'ores et déjà entériné une diminution du budget de 175 millions de dollars qui était prévu à l'origine à 145. On sait, il me semble qu'on en a évoqué lors de la dernière émission, que les écuries qui fournissaient les autres en boîte de vitesse ou en d'autres éléments techniques n'étaient pas très contentes de ça, puisqu'elles considèrent qu'elles ont davantage de coûts associés à la fourniture d'autres dispositifs techniques aux autres écuries. Donc elles demandaient une rallonge. Alors on ne sait pas trop où en est ce point-là dans les discussions. On sait par contre que les discussions sont avancées pour diminuer davantage à partir de 2022 le plafond à 130 millions de dollars.
Il y en a McLaren qui voulait même aller encore plus loin avec un plafond à 100 millions.
Tout à fait.
Et c'est là que Ferrari s'est un petit peu monté dans les tours en disant hop, 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 si c'est comme ça, nous, on s'en va.
Oui, alors attention, parce que c'est limité à 15 000 tours quand même.
Oui, c'est ça.
Mais déjà, avant d'aller jusqu'en 2022, pour 2021, c'est signé maintenant ou... Parce que j'ai entendu parler aussi qu'on pourrait passer de 150 et McLaren voulait même parler encore de 145 millions. Donc j'imagine que s'ils en parlent, c'est qu'ils ont un maigre espoir que ça puisse se faire, quoi.
Alors 145, c'est pour 2021. Après, le 130, c'est pour 2022.
Oui, c'est ça. Mais
ça... c'est pas, c'est le 145, il me semble acquis. Il me semble fait l'objet d'un accord. Le 130, par contre, je ne pense pas que ce soit le cas. Et ainsi que le fait d'accorder un peu plus une petite rallonge pour les écuries qui fournissent des éléments aux autres.
Ouais, le 130, c'est encore une volonté, le Ross Brawn notamment, hein, qui l'a réaffirmé.
Après, si on a un contrôle vraiment précis, ce serait intéressant d'accorder cette rallonge uniquement sur le développement de la boîte de vitesse et pas pour que cette rallonge serve à autre chose, quoi.
Oui.
Et aussi en partant du principe que les boîtes de vitesse développées seront disponibles pour les écuries clientes aussi, sinon Mercedes, enfin les écuries qui vont fournir vont développer des boîtes de vitesse meilleures pour elles avec cette rallonge, sans forcément en faire bénéficier les écuries clean.
Mais c'est en ça que c'est un argument qui est un peu fallacieux, parce que quoi qu'il arrive, ils vont gagner de l'argent avec. Donc ils vont pas faire non plus un surplus de développement. C'est soit ils vont développer une boîte pour eux et ils vont la revendre et ils rentrent dans leurs frais, soit ils vont développer une boîte pour eux et ils vont pas la vendre aux autres. Les autres devront développer quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que c'est une manière un petit peu comme il y a eu dans les négociations sur le budget plafond, le fait de pas avoir telle ou telle dépense qui soit intégrée, les deux plus gros salaires, etc. C'est une manière d'essayer de gratter un petit peu et de trouver un argument technique. Mais pour moi, aujourd'hui, ils rentreront dans leurs frais, tout comme s'ils décident de mettre plus de pognon sur la com ou sur les pilotes, c'est aussi un investissement et ils savent qu'ils y gagnent en retour.
Alors, je te rejoins sur le fait que ce soit un élément de négociation. En revanche, ce qui est bien limité dans le règlement, c'est pas l'équilibre financier, c'est les dépenses. Et c'est indéniable, alors à quelle hauteur, j'en sais rien, que si tu dois fabriquer 30 boîtes de vitesse plutôt que 15, bah, tes frais, ils augmentent. Mécaniquement, c'est obligatoire. Tes dépenses, parce que tu dois acheter plus d'aluminium, tu dois acheter plus de matières premières, tu dois mettre plus de main-d'œuvre pour fabriquer tes...
Mais j'espère que ça a été vu avant, Gus. Ou alors c'est encore plus grave que ça, c'est-à-dire que les mecs, ils avaient accepté un plafond à 175 millions en acceptant d'avoir ces dépenses supplémentaires qui ne leur sont pas imputables, et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont été cons. Je sais pas ce qui est pire, en fait.
Bah, c'est possible.
Je suis d'accord, c'est possible, mais voilà,
ce serait intéressant d'aller vite fait voir le règlement financier si ça inclut, mais à mon avis, ça n'inclut pas.
Ils ont tout intérêt à ne surtout pas vendre leur boîte de vitesse, quoi, et à tout garder pour eux. Même si d'autres écuries, ça implique aussi des retours en termes de pistes et des trucs comme ça. Mais...
Après, je comprends le fait de garder un avantage concurrentiel maintenant. Quand t'es une écurie comme Renault, que tu te retrouves à plus rien fournir à personne, bon, c'est pas forcément bien non plus, parce que t'accumules pas du kilométrage pour lutter contre la fiabilité, pour développer ton moteur, ta boîte de vitesse. Alors, on parle des boîtes de vitesse, mais ça inclut énormément d'autres choses. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments de suspension qui peuvent être aussi revendus aux écuries, même jusqu'aux écopes de frein depuis cette année, je crois. Voilà. Entre notamment Ferrari et Haas, la collaboration technique est assez poussée et voilà.
Je pense que les équipes devront trouver le juste équilibre entre l'argent qu'ils peuvent économiser en matières premières et en ressources humaines pour fabriquer des pièces supplémentaires à vendre et l'argent qu'ils pourront mettre en R&D dans ces pièces-là, quoi, et garder pour eux, puisqu'ils n'auront plus assez d'argent pour acheter la matière première et pouvoir les vendre ensuite. Enfin, si on reste dans l'hypothèse où ces frais-là ne sont pas, enfin, sont inclus dans le règlement financier. Mais je pense qu'il y aura un juste équilibre à trouver, mais le juste équilibre doit faire en sorte que le nombre d'écuries qui souhaitent acheter ces pièces puissent le faire décemment, quoi. Enfin, avec des règles en termes de fonds. Mais, et à voir aussi si, il me semble que pour les moteurs, si une écurie se retrouvait sans motoriste, il y avait une sorte de tirage au sort pour choisir un motoriste à sa place. Donc il faudra voir aussi si le système est mis en place pour toutes les autres pièces clientes.
Bon, visiblement, dans le règlement financier, il y a peut-être quelque chose, mais alors je ne voudrais pas m'avancer. Ouais, bon, je vous invite là encore à vous faire votre propre opinion et à aller à la pêche aux infos. Il y a peut-être déjà quelque chose qui permet de... Mais bon, avançons. On remet le curseur un peu plus sur l'économie, puisque bon, la Formule 1, Liberty Media a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020. Et En effet, ils sont pas bons, de manière non surprenante, puisque le chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 1990, rien à voir, 2019 a baissé de 84%. Forcément, il y a eu seulement quelques revenus publicitaires, j'imagine, en rapport avec, avec les réseaux sociaux, tout ce qui est le numérique. Qui sont rentrés, évidemment tout le reste, comme il n'y a pas eu de Grand Prix, ben tout s'est volatilisé. Ça nous donne une perte de 137 millions de dollars. Il n'y a aucun paiement qui a été fait aux écuries sur les trois premiers mois de l'année. La F1 a été forcée de faire des mouvements de capitaux en interne pour récupérer un peu de cash dans les caisses de la F1, c'est-à-dire qu'il y a des filiales qui ont été transférées du F1 Group à d'autres entités de Liberty Media, etc., etc. Bon, c'est un peu compliqué, mais moi j'ai pas forcément tout compris, mais la F1 a essayé de récupérer un peu de cash pour se préparer à la crise. Bon, dans le deuxième trimestre, qui est forcément pas encore fini, il y a eu quelques paiements qui ont été faits à certaines écuries, pas à toutes. En sachant, alors là je fais les infos un peu pêle-mêle, hein, que Toro Rosso a dit que chaque Grand Prix en moins c'était un manque à gagner estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros. Voilà. Quoi d'autre côté économique? On sait que Williams aussi, pour se refinancer, a vendu sa division ingénierie. Voilà, donc récupérer un peu.
C'était cet hiver, ça.
C'était cet hiver. Alors moi, je l'ai vu dans les news sur la période, donc peut-être.
Ah ouais. Bon, là, on parle peut-être pas de la même chose, mais bon, déjà cet hiver, en tout cas, ils avaient vendu un truc qui était qui pourtant leur était rentable, qui leur apportait de l'argent. Donc ça faisait vraiment tentative de désespérer. Hein. On vend les bijoux de famille pour se renflouer. Ça sentait.
Ouais, maintenant que tu dis, ça me dit.
Ça sentait pas très bon.
Je l'ai vu aussi ressortir sur le mois d'avril. Bon, c'est.
Bon, ils n'avaient pas vendu 100%, donc si ça se trouve, ils avaient vendu une grosse partie cet hiver, ils ont revendu encore un autre bout là en urgence ces dernières semaines.
Ouais. Mais c'est aussi l'une des conséquences, c'est que du coup, des écuries, alors sauf McLaren, hein, qui va continuer à se développer sur 14 000 championnats, mais les écuries vont aussi se recentrer aussi un peu sur leur secteur d'activité propre, originel, par exemple le cas de Williams. On sait aussi potentiellement que voilà, la présence des constructeurs est incertaine sur le long terme, ce qui peut aussi être le retour du coup vers une ère de la F1 plus de constructeurs, alors je dirais pas d'artisans, mais de spécialistes. Alors même s'il faudra voir exactement comment les spécialistes de les écuries peuvent exister, on peut regarder un peu ce qui se passe au Mans ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça qu'il faudra voir, qu'il faudra suivre. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est comment économiquement la F1 va évoluer, ce qui aura nécessairement un impact sur le pouvoir, les réglementations à venir.
Bah, tu vois, là où tu dis les écuries vont se recentrer sur la F1 qui est leur secteur d'activité, est-ce que la F1 est un vrai secteur d'activité où tu peux faire du business? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les budgets nécessaires, vu la redistribution des droits télé, c'est pas forcément... les choses sont faites pour que ça le devienne, mais aujourd'hui la F1 ça ne peut pas être un secteur d'activité. Des écuries comme Williams, bah, elles ont dû faire le choix de se diversifier pour avoir des comptes plus ou moins dans le vert. Sauber a eu besoin d'un partenariat avec Alfa Romeo pour renflouer un peu les caisses et à diversifier son activité, parce que mine de rien aujourd'hui ils exploitent aussi leur soufflerie pour Sauber aujourd'hui fait pas que de la Formule 1, ils font du consulting en termes d'aérodynamique, enfin de l'ingénierie. McLaren, ils font tout et n'importe quoi. Effectivement, les constructeurs, on sait que dans d'autres championnats il y a eu quelques annonces. On sait que Audi va arrêter le DTM et qu'il va rester que BMW en DTM. On sait que, je crois que c'est paru aujourd'hui, que Porsche va pas engager toutes les voitures en GT au Mans qu'ils avaient prévu d'engager. Forcément, les constructeurs vont aussi avoir des portes de sortie. On sait qu'on avait déjà quelques doutes sur Renault avant même cette crise du Covid. On est à la fin des accords commerciaux, on le sait, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, moi, je ne suis pas sûr que la F1 soit une activité en tant que telle et que tu ne puisses faire aujourd'hui que écurie de Formule 1. En tout cas, je ne pense pas que c'est une activité qui te permette d'avoir d'être pérenne, quoi, de ne faire que ça.
Je suis d'accord, mais encore une fois, on ne sait pas ce qui se présente. C'est-à-dire que l'AF1 a été une époque, un championnat où on pouvait y réussir, et Williams en est un exemple, McLaren en a été un exemple aussi, on pouvait y réussir, Ferrari en a été un exemple, très historiquement, on pouvait y réussir en ne faisant, entre guillemets, que ça. C'est avec, effectivement, la rentrée les synergies avec le monde de l'automobile, l'intégration de constructeurs, mais aussi, la sortie de certaines écuries de Formule 1 qui ont apporté leur expertise, et Williams en est un exemple brillant, McLaren est devenu un constructeur par la suite, ont apporté leur expertise, mais c'est ce qu'il faudra voir par la suite. Aujourd'hui, on prend Williams aujourd'hui est très clairement dans une situation économique parce qu'ils se sont développés, qu'ils n'ont pas eu les résultats en F1, et si on prend le cas de Ferrari, voilà, ce qui plombe aujourd'hui Ferrari économiquement, c'est la branche F1, parce que la F1 ne tourne pas, et c'est ni plus ni moins que ce qui se passe pour Williams depuis quelques années. Aujourd'hui, Williams, ils ont dans leur choix, ils préfèrent se séparer de la branche économique, des branches économiques potentiellement rentables pour se replier sur la F1. Je pense que c'est surtout le retour à une distanciation possible à l'avenir entre ce qui relève du monde purement sportif de la F1 et ce qui relève du monde automobile en général. Ce qui irait aussi dans une tendance à une F1 plus spectacle, une Red Bullisation de la F1 avec potentiellement la disparition de certaines équipes, et Williams en est un cas, mais l'arrivée peut-être d'autres équipes, voire le rachat de Williams par d'autres équipes qui seraient portées par des marques ou par ce genre de choses, et qui pourraient être une évolution de la F1 avec des conséquences en matière de spectacle ou ce genre de choses. Je pense qu'on est, pour le coup, on est vraiment à une ligne de fracture majeure de la F1. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais mine de rien, il y a quand même des signaux qui laissent à penser qu'aujourd'hui, c'était déjà assez ténu, c'était difficile aujourd'hui le lien constructeur, parce que très clairement, quand Mercedes y viennent ou ce genre de choses, ils viennent aussi s'acheter une image sportive, une image de marque F1 et le prestige de la F1. Je ne suis pas convaincu que ce soit pour la recherche et le développement uniquement, quoi. Donc aujourd'hui, s'il y a il y a un gros contexte de récession économique, les constructeurs vont partir, ça va laisser la place, si la Formule 1 existe toujours, et moi j'ai la conviction que la Formule 1 existera toujours, ça laissera la place à de nouveaux types d'écuries qui seront plus déconnectés du monde automobile et peut-être plus orientés vers, pas forcément ce qu'on a connu dans les années 60-70, mais ça s'en rapprochera, quoi.
Justement, la grosse différence que je vois avec les années 60-70, c'est qu'à l'époque, t'avais des écuries indépendantes, mais t'avais aussi des motoristes indépendants. T'avais Ducosworth, qui à un moment avait 90% de la grille. Aujourd'hui, les motoristes en Formule 1, c'est tous des constructeurs. Il n'y a pas de Judd, il n'y a pas de Cosworth, il n'y a pas de Hillmore, il n'y a pas de... Aujourd'hui, en Formule 1, en tout cas, ça n'existe plus. Alors peut-être que demain, il y aura de nouveau des projets, des gens qui feront du business sur la Formule 1. Aujourd'hui, tu as Honda, Renault, Mercedes qui s'en vont. Il ne reste plus que Ferrari. Est-ce que Ferrari a envie que... De motoriser 100% des écuries, je m'avance un petit peu, tu vois, mais ce que je veux te dire par là, c'est que la différence avec un Williams qui dominait la Formule 1 dans les années 80-90, c'est que Williams, il l'a fait en partenariat avec des constructeurs de toute façon. C'était Williams Renault, c'était Williams Honda, c'était McLaren TAG Porsche, c'était McLaren Honda. Voilà, ils n'ont jamais fait 100%. Là où aujourd'hui on est tout autant tributaire de tiers, et il n'y a pas de gens qui ont les épaules aujourd'hui pour arriver en Formule 1 et faire des moteurs.
Mais c'est pour ça que moi je parle d'écurie, hein. Je parle pas de moteur, je parle d'écurie. Ce qui est différent. Et encore une fois, si tu regardes historiquement, les années 50, c'est une décennie de constructeurs. Et pourtant, derrière, on va avoir les années 60 et 70, où on va avoir très peu de constructeurs, une espèce de balkanisation, mais aussi parce que dans les années 60, il y aura une montée, par exemple, de la F2, enfin, une remise. On n'est pas à l'abri de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, si les trois constructeurs, les trois constructeurs autres que Ferrari s'en vont, bah, on se retrouve avec Ferrari, on se retrouve avec McLaren. Il y aura sans doute des périodes un peu tampons. Peut-être que les moteurs qui sont aujourd'hui actuel, la F1 réagira en disant on gèle les moteurs, donc on pourra garder des moteurs Mercedes rebadgés, Renault rebadgés, etc. Et ce sera clairement un avantage pour Ferrari. Ferrari vendra peut-être ses moteurs à d'autres. Et puis, tout comme à un moment donné, il y a eu l'émergence de Cosworth, il y aura peut-être aussi l'émergence d'un nouveau motoriste. Là, je parle vraiment pas aujourd'hui, demain. Je parle sur du temps très long, c'est-à-dire sur les 10-15 ans qui viennent. Parce que j'ai la conviction que la crise qu'on est en train de travailler, qui est inédite, le championnat de Formule 1 qui est arrêté, on se demande même si ça tiendra avec des décisions qui sont prises, et il faut bien prendre l'ampleur des décisions qui sont prises. On prend des décisions de revoir, et les écuries se mettent d'accord, de revoir le budget plafond et d'adapter le règlement en urgence, alors qu'on est en plein milieu de la crise. C'est-à-dire qu'on est encore sous la vague et on ne sait même pas ce que va laisser derrière elle la vague. Donc ils sont déjà aujourd'hui en train de se mettre d'accord sur des trucs énormes, qui sont des progrès énormes qu'on n'avait pas réussi. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on fait le SAV, le budget capé, ça fait 10 ans qu'on en parle. Ils avaient réussi à le mettre, mais on a réussi à atteindre un niveau de budget capé qu'on pensait même pas atteignable. En fait, ils ont réussi à faire ça, alors que la vague n'allait même pas retourner sur le fond des océans. Qu'est-ce que ça va être après ? Donc, moi, j'ai quand même la conviction qu'on est au tout début de grandes décisions et de grands chamboulements, et que pour moi, il y aura, je pense, un chamboulement du paysage de la F1 avec des refontes de règlements. Mais on le voit bien déjà dans le contexte général, mais ce sera le cas dans le contexte. On va mettre en place des documents qui vont tenir 2 mois, 3 mois. Dans 3 mois, on va revoir les choses et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se sera stabilisé. On saura quelles sont les forces en présence, etc. quoi.
Mais si tu regardes le sport automobile dans son ensemble, la manière dont il a évolué ces dernières années, la Formule 1, avec son système dans lequel chaque engagé est également un constructeur, 10 écuries, 10 constructeurs, c'est devenu une anomalie. De plus en plus, on se dirige vers la monotypie. Et la Formule 1 ne sera jamais une formule monotype comme la F2, comme l'IndyCar, mais on va tendre vers quelque chose quand même de ce style. Je crois que c'est Jean Todt qui en parlait récemment. On va sans doute avoir de plus en plus d'écuries qui auront recours à un modèle de l'année précédente qu'elles n'auront pas conçu, des châssis clients. Du côté des moteurs, on va sans doute également se diriger vers quelque chose de ce style avec un gel général pour éviter la course à l'armement. Donc oui, je pense que la Formule 1 telle qu'on l'a connue ne pourra pas survivre à la crise actuelle et qu'on se dirige vers quelque chose d'assez différent.
Du moment que le gel est hydroalcoolique, ça...
Eh oui. Ça ne m'enchante pas forcément que la Formule 1 devienne une sorte d'IndyCar plus. Mais bon, malheureusement, vu le contexte, on n'y échappera pas. Comme disait Dino, là, on est encore dans la crise sanitaire. Je crois qu'on n'a même pas idée de la crise économique qui nous attend.
Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, Gus, mais c'est que ces derniers jours, on a réentendu parler du projet Pantera. Espèce de projet d'écurie asiatique qui était plus ou moins dans les clous, qui s'est rappelé notre bon souvenir comme quoi il voulait s'engager en 2021.
Une fois par an. Une fois par an, on y a droit.
Oui, donc on ne sait pas aujourd'hui quelle est la réalité, la faisabilité de ce projet d'écurie. Je pense qu'aujourd'hui, ils soutiennent qu'ils seront là en 2022 et qu'ils ont déjà un plan. Je pense que c'est très prématuré, mais c'est mine de rien un signe. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, ce n'est peut-être que de la com, à un moment donné, ce qui est de la com, ça veut dire qu'il y a quand même de l'intérêt pour le produit F1, la visibilité que ça donne. Si à un moment donné, plus que de la com, on a les moyens de le faire, ils le feront. Et je pense que on va peu à peu quand même se diriger, et on se dirige déjà, parce que mine de rien, aujourd'hui, être compétitif, en 2019, il fallait mettre 500 millions sur la table. Enfin, 500 millions, non, parce que c'est 500 millions budget global. On va dire budget performance, il fallait mettre 300 millions. Là, mine de rien, l'année prochaine, il faudra mettre 145 millions. Donc déjà, ça sera plus accessible pour d'autres acteurs. Et voilà, à un moment où quand même on parle de constructeurs qui pourraient partir, on parle quand même, même si je pense qu'aujourd'hui c'est de la com et c'est pour montrer qu'on est là, mais il y a quand même de l'intérêt des noms qui circulent, qui jusqu'à présent ne pouvaient pas se concrétiser. Et on l'a vu avec Caterham, on l'a vu avec HRT, etc. Il y avait eu la volonté, ils ont passé le cap, mais ils n'ont jamais réussi à tenir. Budgétairement, ce n'était pas possible. Demain, ce sera possible. Potentiellement possible. Je vais pas faire trop mon gars certain.
Là, je pense que c'est le bon moment pour que Stéphane Grand Prix.
Ah ben. Arrive. Le communiqué vient de tomber.
Avec Jacques Villeneuve et le fils Nakajima.
Ah, puis USF1 qui arrive. Ça y est, ils vont arriver. Ils seront là en Autriche.
En 2010, c'est prêt. Messieurs, non. Petite news des bugs. Oui, vas-y.
Et puis, mine de rien, il y a un effet aussi bénéfique dans ce coronavirus. On l'a vu sur le SAV, c'est que, mine de rien, aujourd'hui, on n'a rien à se mettre sous la dent quand on est fan de Formule 1. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder les archives de la F1. On va se documenter un peu. Sur tous les sites, le numéro 1 français, c'est Motorsport. Il y a des articles de historiques. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment que ça à lire en parallèle d'articles coronavirus. Donc, il y a une visibilité supérieure aujourd'hui de ce qui se faisait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, de ce qu'était la F1. Je pense qu'aujourd'hui, le fan de F1 d'aujourd'hui, le consommateur de F1 d'aujourd'hui, a plus le loisir de se plonger un peu dans l'histoire. Et mine de rien, ça peut avoir quand même un impact à l'avenir sur ce qu'on veut de la F1. C'est-à-dire qu'on a eu, je pense, beaucoup de visions de la F1, monotype, enfin une génération aussi de personnes qui disaient « Ouais, la F1 spectacle, etc. » Bah, peut-être qu'en allant redécouvrir, parce qu'ils n'ont pas le choix aujourd'hui, c'est l'alternative numéro un, en allant redécouvrir ce qui se faisait avant, voilà, ça va peut-être nourrir des choses sur un nouvel attrait, sur peut-être une simplification, peut-être une fin d'idéalisation quand même de certaines époques. Se rendre compte quand même qu'aujourd'hui on est dans un sport qui est quand même plutôt très compétitif, voilà, et que après tout, si on est compétitif à 500 millions, bah, y a peut-être moyen d'être encore plus compétitif en étant tous à 100 ou 150 millions. Voilà, y a peut-être des choses aussi qui peuvent alimenter un changement, sans parler de l'e-sport.
Non, parlons pas de pas live stream ici.
Après, pour casser un peu l'ambiance, je pense que ça va quand même être une petite partie des gens qui vont s'intéresser à l'histoire du sport grâce au confinement et à la crise. Je pense que ça n'empêchera en aucun cas les gens qui vont dire qui vont revenir en disant c'était mieux avant.
Mais mine de rien, ça fait partie des petits trucs. Je pense que les gens vont, une partie des spectateurs de la F1 vont peut-être sortir un peu mieux informés sur l'histoire de la Formule 1. Et mine de rien, ça joue beaucoup. On se rappelle tous des débats qu'on a pu avoir sur Pirelli quand les gens disent ouais, mais ça c'est pas la F1. Mais mon gars, écoute, c'est juste que t'as 10 ans de Formule 1 derrière toi. Mais regarde les 60 dernières années. Oui, des courses à la consommation. Oui, il y en a eu. Donc c'est peut-être ça aussi que ça peut.
Ça va bien, hein. Elle avait 12, ça fait des bruits, hein.
mais voilà, ça peut faire partie des trucs qui peuvent jouer très marginalement, mais voilà, c'est ça peut accompagner un mouvement plus large.
Messieurs, pour refermer cette page économie, petite news démago. On a appris que le directeur général de Liberty Media, Greg Maffei, avait touché sur l'année 2019 44 millions de dollars. Est-ce que vous trouvez ça...
C'est la honte.
Est-ce que ça mérité ou pas?
Voilà, il faut reverser ça aux petites écuries.
Ça dépend, il les a touchés quand?
En pièces de 5 centimes, j'imagine, régulièrement, tu vois, livré tous les jours.
Non, mais c'est un signe. Que la F1, mais comme d'autres, hein, quand on prend le Tour de France, ou même le tennis, c'est un signe qu'on est face à des entreprises et des business aujourd'hui.
Mais d'un côté, c'est ce que je trouve rassurant aussi, c'est que la... c'est vrai que le dossier économique est très compliqué. Comme toi, Gus Gus, j'ai pas tout compris à l'article sur le les virements internes de chez Liberty, mais je me dis que on est peut-être dans une meilleure posture avec Liberty aux commandes et les transactions qui peuvent se faire entre eux pour ne serait-ce que maintenir le championnat et aussi pour, comme ils l'ont expliqué, pouvoir saisir et avoir de la liquidité pour saisir chaque opportunité qui passera à l'avenir, que si on était tout seul avec les stones aux manettes, entre guillemets.
Ah,
quoi.
Alors, petite page carnet rose, du coup. Voilà, nous souhaitons adresser de plus sincères félicitations à Bernie Ecclestone, qui est papa. Alors, j'ai pas plus de détails que ça. 89 ans, hein, le
bébé.
Bernie, hein. Ouais, le bébé avait déjà les cheveux blancs et la coupe Playmobil. Mais bon,
moi, je pense qu'il s'appelle Baby Yoda. Ouais. On le verra dans The Mandalorian.
On félicite Bernie, on félicite son pharmacien aussi. Hein.
Ah bah, l'action Viagra a pris 15%. Hein.
On félicite le groupe froid.
Non, mais la question, c'est est-ce que, d'après vous, Bernie sera mort avant de se rendre compte que c'est pas le sien? 89 ans, les airs de ressemblance, est-ce que ça va vraiment...
La question, c'est surtout... Est-ce que le fils sera assez grand avant la mort de Bernie pour qu'il se rende compte qu'il a eu un premier père avant le deuxième, quoi?
Oui, c'est vrai.
Attention. Il nous enterrera tous, le Bernie.
En tout cas, pour se mettre les féministes à dos, c'est bien joué, Gus Gus, de féliciter uniquement le père pour l'accouchement de la dame.
J'ai fait ça.
Oh, les féministes.
Je félicite aussi Fabiana, de 46 ans, sa cadette. Hein, je suis en train de lire la page Wikipédia.
Et pas du tout intéressé par sa fortune.
Non, absolument pas. C'est beau l'amour.
Comme ça, on a tout fait. Hein. On a bien les... Enfin, Bûcheur a bien les féministes ados.
Non, alors la page carnet de la F1, il y a aussi le carnet noir, malheureusement, puisque on a appris lors du mois d'avril le décès de Stirling Moss. Messieurs, j'imagine que vous avez envie de lui rendre un hommage. Donc Stirling Moss, qu'on ne présente plus, pilote dans les années 50.
On n'a plus le choix maintenant. Là, on est un petit peu obligé d'avoir envie.
Je dis Stirling Moss, mais Sir Stirling Moss, voilà, pilote dans les années 50,
ouais, bon,
pilote le plus victorieux à ne pas avoir remporté le championnat du monde, voilà, qui nous a quittés à l'âge de 90 ans.
Bah, c'était un des plus grands pilotes de l'histoire, hein, même s'il n'a aucun titre de champion du monde au palmarès, c'était un des plus grands.
Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il avait juste l'âge pour être papa.
Mais il avait mis un terme à sa carrière automobile il y a quelques années seulement.
Oui, il a très longtemps couru dans les courses historiques.
Et ça, ouais, c'est la même génération, puisqu'il y a 90 ans contre 89 avec les Stones.
Mais ils ont dû courir ensemble.
Sans doute.
Se rappelons que Bernie Ecclestone a fait de la F1. Ouais, là, ici,
il a deux qualifications.
Ouais, alors c'était à l'époque, il était directeur d'écurie et je crois que c'était juste pour toucher une prime d'engagement en fait. Il avait fait un tour au ralenti pour toucher une prime.
Pas fou.
il avait déjà le tronc d'affaires.
Bon, rien d'autre à dire sur Stirling Moss. Alors on a fait 5 minutes sur Ecclestone.
Ouais.
Non, mais...
Bah si, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il a pas le palmarès en F1 qu'il mérite parce que Stirling Moss, il était en anglais jusqu'au bout des ongles. Il a souvent eu des choix de carrière un peu foireux. On lui présentait une bonne écurie. Il disait non, je préfère une mauvaise écurie britannique qu'une bonne écurie étrangère. Donc il a souvent été au mauvais endroit, au mauvais moment, parfois aussi un peu poissard. Donc ouais, il aurait mérité un ou deux titres de champion du monde. C'était pas. Des fois, on dit, voilà, Stirling Moss, plusieurs fois vice-champion du monde, le Pouli d'or de la F1. C'est pas exactement le Pouli d'or, parce que Pouli d'or n'a pas gagné le Tour de France parce qu'il y avait plus fort que lui. C'était en Anquetil ou Merckx ou d'autres. Mais Stirling Moss, à une période, était vraiment le meilleur pilote du monde. Si on prend la période qui va, on va dire, de la retraite de Fangio jusqu'à l'avènement, enfin, de Jim Clark, enfin, on va dire jusqu'à l'accident qui a mis un terme à la carrière de Stirling Moss, Stirling Moss était le meilleur pilote du monde. Donc c'est vraiment un immense champion. C'est pas juste un bon champion qu'aurait pu avoir plus. C'était vraiment le meilleur pilote de sa génération.
Après, c'est difficile, c'est parce que pour le coup, c'est une icône de la F1. Maintenant, avec laquelle on n'a pas forcément d'accroche, c'est quelqu'un qu'on voyait plus dans le paddock depuis un certain nombre d'années. C'est mine de rien, c'est une histoire qui remonte à il y a plus de 60 ans. Donc voilà, c'est un peu c'est terrible parce que je vais pas lui rendre hommage, mais voilà, c'est effectivement un énorme champion. C'est une légende de la F1 qui, hélas, ces dernières années, était un petit peu trop souvent réduit, et c'est bien ce que tu as dit, parce que c'est remettre vraiment dans le contexte de l'époque. On le retient souvent pour son palmarès, pour sa longévité, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de... J'ai pas la même émotion pour la mort de Stirling Moss que pour celle de Niki Lauda l'année dernière, parce que d'abord j'ai pas la même relation avec le pilote, parce que j'ai pas la même expérience du pilote, et aussi parce que le contexte est différent. Hélas, Stirling Moss, il est mort dans un contexte, alors il n'est pas mort du Covid, hein, mais il est mort dans un contexte où j'ai pas la même attention et j'ai pas la même émotion. Mon émotion, elle n'est pas disponible pour la mort d'un pilote. Je pense que j'aurais pas vécu la mort de Lauda de la même manière s'il était mort cette année pendant l'épisode de Covid. Voilà. Donc c'est compliqué en fait de rendre hommage à Moss, si ce n'est un hommage en donnant des généralités. La réalité, c'est que j'ai conscience que c'est un pilote énorme, et c'est une légende de l'histoire, et je pense que aujourd'hui on n'est pas en mesure de lui rendre l'hommage qu'il mérite véritablement.
C'est vrai qu'on a peut-être un peu moins d'accroche avec lui parce que il était là, mais pas suffisamment pour nous marquer comme Lauda a pu nous marquer ces dernières années en Formule 1. Malgré tout, avec ses quelques apparitions dans les événements Mercedes avec Hamilton, Moss nous a réapparu comme ça, mais c'est vrai qu'il a une période aussi des années 50 où on a très peu d'images auxquelles se raccrocher. Donc finalement, il était suffisamment présent pour qu'on y pense, mais sans qu'il nous marque assez par sa présence ou par son passé, parce que finalement, il était plus ou moins absent, soit par les images, soit pas. Bah oui, globalement, par les images dans les deux époques, il était assez absent malgré son palmarès.
Oh, c'était aussi un pilote très éclectique, hein, Stirling Moss. Enfin, il a brillé en endurance. Il a notamment remporté, c'est peut-être sa victoire la plus célèbre, les 1000 Miglia en 55 sur Mercedes. Alors, les 1000 Miglia, c'est une épreuve vraiment d'un autre temps, à mi-chemin entre l'endurance et le rallye. Il avait gagné en 55 sur la Mercedes-Benz 300 SLR à une vitesse moyenne complètement ahurissante. Stirling Moss, il a aussi, je crois, terminé deuxième d'un Monte Carlo, je saurais pas dire en quelle année. Ça, c'est complètement inimaginable aujourd'hui, un pilote de circuit qui terminerait deuxième du Monte Carlo. C'était vraiment un touche-à-tout. Il allait vite dans n'importe quelle voiture.
Ouais. Garde ça pour les articles.
J'avais un super bouquin sur Stirling Moss, malheureusement.
Malheureusement,
il l'a perdu.
Bel hommage.
c'est Moss.
Ah, ça, c'est Moss. Ça, c'est très Moss.
Très Moss.
C'est moquer des gens qui zozotent, c'est horrible.
Oui.
Isabelle Mergo te crache à la gueule.
C'est pas très geste barrière, quand même. Par
non, c'est vrai.
Si elle peut faire ça, mais avec un masque, moi, ça me marrant.
T'imagines la pauvre, elle va se noyer. C'est horrible.
Bon.
C'est le deuxième procès du jour. Hein.
Oui, bon,
salut,
tu sais,
Bouchard.
Ouais. Salut, monsieur le président. Moi, j'avais pas plus d'infos. Alors, McLovin, tu voulais parler de Lando Norris et de Sim Racing. Je te laisse 2 minutes.
Oh non, mais c'est vraiment comme quoi on s'emmerde en ce moment. Le grand scandale du week-end dernier, c'était une course. Une course virtuelle, hein, les 500 miles d'Indianapolis virtuelle. Alors c'était même pas 500 miles. Donc en la plupart des championnats hein, font leur petit championnat virtuel avec plus ou moins de présence des pilotes officiels. En Formule 1, on va être clair, il y a quasiment très peu de pilotes. En IndyCar, ils sont quasiment tous là. Mais bon, ils sont là parce que faut être là, que les sponsors le demandent, que les dirigeants du championnat le demandent. Mais bon, ils sont plus là un peu pour se marrer, j'ai l'impression. Par contre, Lando Norris, lui, qui est un sim racer accompli, a été invité à la dernière course et bon, ça s'est pas bien passé. Simon Pagenaud lui a fait un petit break testing. Il a décollé de 100 mètres en hauteur façon drive. Et ça a fait le grand scandale sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on a vu que la fanbase de Lando Norris était quand même un chouïa pénible. D'avoir fait tout un bins, oui. Et trois jours plus tard, sur une autre course à laquelle il était invité, alors une course de championnat australien Supercars, qui avait lieu sur le circuit de Spa-Francorchamps, pour le coup, c'est Lando Norris qui a fait le con. Et là,
c'est marrant.
Ils sont un petit peu moins vantés.
Voilà, je suis désolé d'avoir gâché 2 minutes de vos vies. tiens, à présenter mes excuses les plus plates.
Non, mais comme quoi, on se fait un petit peu chier en ce moment.
Le CSA me sanctionnera.
Non, mais il est vraiment temps que la course réelle reprenne.
J'avoue.
Qu'on s'engueule pour des vrais accidents.
Ouais, qu'il y ait des blessés, des trucs, quoi.
Mais oui. qu'on ait des bonnes raisons de se scandaliser.
Non, moi je suis désolé, mais il y a vraiment des bonnes raisons. Il y a quand même des pôles où les gars respectent pas les lignes, alors que c'est quand même des professionnels de la F1, alors que les simracers, ils respectent les lignes. Oui,
Franck Montagny respecte toujours les lignes.
Oh, non, arrête, on pourra jamais l'inviter.
23h01 sur le point de montage. Allez, tu fais. Bon, messieurs, est-ce que vous voulez aborder des sujets un peu plus intéressants?
Ça vous inspirait pas le sim racing?
Non.
Non, mais moi en soi, ça m'intéresse pas du tout. Mais je trouvais la polémique était rigolote.
Moi, je préfère participer.
Ah oui.
N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs au SSC. Bon là, la saison est un peu terminée, mais ça roule sur Assetto Corsa en ce moment sur le Discord du SAV. N'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous vous embêtez le soir notamment, mais l'après-midi aussi si vous êtes au chômage comme certaines personnes. Voilà. Bref, on s'en prend. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que vous voyez des actualités qu'on n'a pas traitées?
La sortie de F1 2020.
On n'a dit pas de... Alors après, c'est pas vraiment du sim racing. C'est vrai que c'est plus de jeu d'arcade.
C'est de l'arcade.
Avec la Schumacher Edition.
Oui.
On change le sujet tout de suite. On évite les sous-entendus, les blagues.
C'est le premier jeu de F1 végétarien.
Voilà, ça c'était sûr.
Tu l'attendais, donc c'est bon.
Ouais. Mais je trouve que ta blague est ratatouille un petit peu.
Oh. Je trouvais pas de suite, donc bon bah.
Allez, une dernière question sur une news que j'ai qui passe un peu inaperçue, mais qui, moi je trouve, je vous allez dire ce que vous en pensez. Moi, ça m'emmerde un petit peu. C'est Toto Wolff qui prend des parts dans Aston Martin. Moi, à titre personnel, je trouve que Toto Wolff est en train est un personnage qui devient de plus en plus tentaculaire dans le monde de la F1. Il est donc le patron d'écurie Mercedes. Il a maintenant des parts dans Aston Martin. Il est manager de pilote. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve, pour finir...
Il y a un petit côté Billiator.
Il y a un petit côté... Alors, sans aller dans le côté sulfureux, parce que c'est quand même pas le type de même type de personnage, je trouve qu'il y a un côté un petit peu conflit d'intérêts chez Toto Wolff qui me dérange un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il a du mal à se concentrer dans un seul rôle et il faut que ça aille à droite à gauche. Alors, d'autant plus que Aston Martin, on en a parlé lors de la dernière émission, va racheter, en tout cas, enfin, comment dire,
va copier.
Il y a un consortium, oui. Il y a un consortium mené par Lance Stroll qui rachète Aston Martin. Donc Toto Wolff va mettre des billes là-dedans. Aston Martin qui va prendre, enfin Racing Point va prendre le nom d'Aston Martin via ces liens-là. Enfin voilà, moi il y a toute une nébuleuse autour de Toto Wolff que je trouve un petit peu pas suspecte mais dérangeante, quoi. Ça me pose souci de voir quelqu'un qui a des intérêts un peu partout. Effectivement, ça rejoint Briatore dans ce côté-là, même si Briatore avait d'autres côtés un peu plus sulfureux, on va dire. Toto Wolff reste quand même quelqu'un qui a une bonne image,
c'est peut-être ce qui est plus dangereux d'ailleurs.
C'est dans un sens, oui.
Oui, parce que pour le moment, on lui donne un peu le bon Dieu sans confession. Moi, je restais sur une image dans la saison 2 de Formula 1 Drive to Survive, qui est l'image dans la voiture de la négociation, de la négociation ou de la prise de rendez-vous, je ne sais plus exactement, avec Renault pour Ocon, de la conférence de presse qui officialise Ocon chez Renault, mais dans l'environnement Mercedes. Voilà, pour le coup, j'ai trouvé Toto Wolff beaucoup moins sympathique. Effectivement, ça doit nous amener à être vigilants, d'autant qu'il y a eu des rumeurs plus ou moins insistantes sur peut-être son accession à des fonctions de dirigeant au niveau de la F1, en tout cas des tentations de le solliciter. Donc ça demande quand même une certaine rigueur, et même admettons que ça ne se fasse pas, le fait que la F1 aille le chercher et que lui, se sachant potentiellement candidat ou désiré, augmente son implication dans différents secteurs liés à la F1, ça doit amener une certaine vigilance.
Oui, puis tu parlais de l'image sulfureuse de Briatore, mais à l'époque où Briatore était le team manager de Benetton, en même temps copropriétaire de Ligier, qui commençait aussi à avoir des jeunes pilotes en management, à cette époque-là, l'image de Briatore, elle était plutôt bonne. Hein. Donc ouais, attention, attention.
Et puis ce qui est un peu flou aussi, c'est que au moment où il investit, on dit que c'est vraiment deux entités très très séparées et que son investissement dans Aston Martin pour les voitures de série n'influencera aucunement la participation sur Aston Martin F1. Mais déjà, ça semble bizarre, enfin, ça semble complexe, même si la séparation existe bien en vérité. D'un point de vue non officiel, ça paraît plus flou. Et dès qu'Aston Martin va plus mal, on cache pas que toute la structure, notamment F1, est aussi remise en cause, quoi. Donc, d'un côté, il y a quelque chose qui n'est pas égalitaire entre les deux parallèles. Enfin, le parallèle qui existe, en tout cas.
Aston Martin, c'est la division qui fait des œufs. Non, mais en fait, moi, tu peux être la personne la plus honnête possible. Je suis pas en train de remettre en cause que Toto Wolff, il fait pas ça aussi parce que Aston Martin, c'est une marque qui fait rêver et qui est en difficulté et qui a besoin de fonds et qu'il veut participer à cet effort-là. Peux être la personne la plus honnête au monde, tu peux pas cloisonner, en fait. C'est trop compliqué de cloisonner divers rôles. Mais c'est un peu partout dans le monde de l'économie. T'as des gens qui sont à 10 ou 15 conseils d'administration qui ont des billes de partout. Dans le monde économique, ok, là par contre on est dans un monde sportif où mine de rien il est un peu partout. Il y a des enjeux financiers et en fait ça donne un peu l'impression.
On est peut-être plus dans un monde sportif du coup.
Déjà un peu ça, et puis quoi qu'il se passe, il sera toujours gagnant, en fait. C'est con, mais on est dans un truc financier qu'on à la limite on s'en fout, mais c'est pas juste.
Mais il y avait déjà eu plus ou moins le cas parce que Toto Wolff, il vient à l'origine de Williams, où il avait gardé des parts chez Williams, ce qui a quand même beaucoup orienté aussi le partenariat Williams-Mercedes.
De Williams vers Mercedes, et c'est lui le manager. Enfin bon, ça fait beaucoup.
Suzy Wolff qui était aussi pilote réserve chez Williams.
C'est ça, il nous a piqué Suzy Wolff. Et voilà.
Et c'est pas elle qui s'occupe de Mercedes en Formule 1. Ah non, c'est Venturi.
Non, c'est Venturi. Ouais. Ouais.
Mais après, c'est aussi, je pense que ça dit aussi beaucoup sur ce qu'est au final la F1, c'est-à-dire que effectivement, pour le moment, ça choque pas. Et dans les faits, c'est qu'historiquement, ça ne choque pas. Mais c'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un président de la FIA qui est l'ancien directeur de Ferrari. Tu as Marcin Butkowski qui était ancien de chez la FIA, qui est passé chez Renault. C'est effectivement c'est un petit milieu et c'est pour ça que ça fait. Enfin, j'étends complètement le débat, mais c'est pour ça que ça fait doucement rire quand on entend pas encore aujourd'hui. Je reviens sur le partenaire, enfin, l'accord secret Ferrari, mais quand on entend dire oui, ça serait bien qu'ils parlent, etc. Mais oui, mais pourquoi vous avez pas protesté à l'époque? Vous aviez déjà des soupçons. Donc, c'est toujours les petites ententes. Les petits arrangements entre amis, c'est un peu cet univers-là qui reste et que effectivement en l'état symbolise un petit peu Toto Wolff quoi.
Sportivement, ça me choque pas parce que effectivement lui, du fait qu'il est peu importe la finalité, il pourra être gagnant dans les deux cas. Ça peut aussi, on peut aussi le prendre dans le sens où lui, il a tout intérêt à ce que les petites équipes comme les grosses, même si Aston Martin, faudra voir ce que ça devient aussi. Mais dans la situation actuelle, ça reste une écurie de milieu de plateau. Mais est-ce que le niveau, justement, soit plus nivelé entre les équipes, puisque lui aura des billes dans les deux, quoi. Et effectivement, financièrement, ça pose peut-être problème. Mais sportivement, moi, ça me pose aucun problème. Et ça me pose moins problème, effectivement, Dino, tu disais que Todd à la FIA ou que Zak Brown qui avait McLaren et Motorsport, quoi.
Ça pose quand même un problème. Si tu prends par exemple aujourd'hui, ça veut dire que potentiellement, tu as le patron de l'écurie Mercedes. S'il y a besoin, il est quand même copain et co-actionnaire de Aston Martin qui est pas propriétaire de Racing Point, mais qui est indissociable de Racing Point. Accessoirement, il a un pilote qui est sous contrat, qui est l'un de ses pilotes qui est chez Renault. Il y a un petit moyen de pression quand même de ce côté-là. Donc, si à un moment donné, on veut négocier, bah, ça peut être aussi un biais. Il y a George Russell qui est chez Williams. Sans compter bah, que Mercedes peut donner ou peut voir ses prix ou faire des cadeaux à une écurie cliente. Ça montre, encore une fois, c'est pas pour cibler Toto Wolff, c'est un exemple, mais ça montre aussi que quand même sportivement, on est face quand même à quelque chose qui est assez nébuleux et où tu peux avoir quelqu'un ou une écurie, là on parle de Mercedes, mais c'est le cas par exemple de Ferrari aussi sur plusieurs aspects, qui a un pouvoir, qui a des leviers, qui a moyen d'influencer quand même le championnat et la conduite du championnat, de prendre des décisions ou pas. Très clairement, l'impact sportif, on l'a vu avec Ferrari l'année dernière et les questions autour du moteur, personne n'a porté réclamation parce qu'ils se tiennent tous plus ou moins un peu par les couilles et que du coup, personne n'a voulu prendre le risque de le faire contre Ferrari. On l'a vu avec Renault à Imola, je crois, où voilà, on sait très bien qu'il y a une protestation contre Renault parce qu'à un moment donné, je sais plus qui a décidé qu'il fallait arrêter, mais parce qu'en fait, tout le monde se tenait par les couilles. Donc, il y a quand même un impact sportif qui est quand même assez conséquent, quoi. Mais maintenant, c'est dans les gènes de la F1. Moi, c'est ce qui fait aussi que j'aime la F1 pour ça. C'est que la F1, ça n'a jamais été équitable. Même si on a un budget capé, ça ne le sera pas du tout. Et c'est ça qui est, moi, c'est ça que j'aime. C'est de voir un petit peu comment ce milieu, qui est un milieu médiatique, enfin, médiatico, non, pas médiatique, je dis une connerie, économico-sportif, par moments aussi un peu mafieux. Hein, dans l'histoire, quand même, on parle de Briator, mais il y a eu quand même des sponsors qui étaient des sponsors un peu nébuleux. Il y a quand même, je crois que c'est Williams qui a été sponsorisé par Oussama Ben Laden, enfin par Ben Laden. Enfin voilà, il y a quand même eu des choses. C'est un milieu qui est quand même un milieu assez particulier, quoi.
Moi, j'aimerais juste qu'on m'explique quand il y a des négociations pour prolonger Valtteri Bottas, s'il arrive à se dédoubler. En fait, il est des deux côtés de la table, en fait, Toto Wolff à ce moment-là. Enfin, comment ça se passe?
Officiellement, je crois que c'est plus lui le manager de Bottas. Officiellement.
Ah ouais, mais bon.
Ouais, je crois qu'il était, on lui avait posé la question, il était revenu sur le sujet pour éclaircir la situation. Je me souviens plus de la réponse de l'époque, mais...
C'est pas Mika Hakkinen et Didier Coton maintenant qui managent Bottas ?
Enfin bon, voilà, c'est juste pour finir sur une note un peu plus... Bon, c'est une actu que j'avais vu passer et qui m'avait fait réagir, et je trouve ça plus intéressant que l'e-sport.
On parle pas des transferts ?
Vas-y, parle des transferts, qu'est-ce que tu veux dire ?
Non, mais parce que mine de rien, il y a quand même un questionnement sur les transferts de cette saison. Alors, avec le cas aujourd'hui, qui est le cas le plus emblématique, c'est le cas de Vettel, l'avenir de Vettel chez Ferrari. C'est le cas qui m'intéresse le plus. Vettel qui se serait vu proposer un contrat d'un an avec une forte diminution salariale, puisqu'il aurait été remis au niveau de Charles Leclerc. Contrat qui aurait été, encore une fois, c'est toujours les aurait qui sont importants. Contrat qui aurait été décliné par Sébastien Vettel. Ferrari qui aurait proposé un nouveau contrat, toujours avec une grosse diminution salariale, mais un contrat de 2 ans. Donc sur 2021 et 2022, ce qui est quand même un changement pas anodin, mais qui aurait aussi sur sa shortlist Sainz et Ricciardo. Tout ça pour dire que pour le coup, il va y avoir aussi une question, c'est qu'on a quand même, on était quand même mine de rien à l'approche d'une saison 2020 qui était une saison avec, même s'il y a eu deux renouvellements pas anodins en début d'année, Charles Leclerc et Max Verstappen, il y avait quand même beaucoup d'inconnus sur le marché. Il y en a encore plus aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment va se faire cette saison et on ne sait pas comment va se goupiller la saison prochaine. Je pense que 2021, bon, ça peut encore le faire, mais quid de 2022 ? Voilà, pour le coup, sur le marché des transferts...
Si la saison est déborde sur 2021, alors j'imagine qu'il y aura du bon sens, mais les contrats, normalement, ils s'arrêtent au 31 décembre 2020, quoi.
Ouais, c'est comme le contrat... Enfin, tu me diras, Mercedes McLaren.
Excuse-moi, Dino, reprends.
Donc, voilà, ça pose beaucoup d'interrogations. On sent quand même pour le moment que il n'y a pas de. Au final, il y a quand même assez peu de rumeurs pour le moment dans ce contexte-là, ce qui est assez compréhensible au regard du contexte et au regard aussi, je pense, des priorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes ne se projettent pas sur ça, etc. Maintenant, mine de rien, le choix de ton pilote, c'est quand même un choix très structurant pour 2021 et 2022. Les pilotes qu'on va signer, très peu de pilotes vont vouloir signer qu'un contrat d'un an, sauf si c'est pour aller signer dans une écurie de pointe. Tu vas quand même devoir essayer de t'engager sur un pilote qui va pouvoir t'amener des choses dans le changement de réglementation. C'est mine de rien, je pense quand même que c'est un sujet aujourd'hui dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, moi, me rend quand même très, très curieux. J'aimerais bien savoir comment ça négocie en ce moment et comment ça parle en ce moment. Parce que voilà, c'est pour le coup, en matière de transfert, mais c'est... la situation, elle est plus qu'inédite, quoi. Enfin...
Moi, je pense que ça témoigne qu'il ne se passe rien. Mais je vais te dire pourquoi il ne se passe rien, à mon avis. C'est que les écuries se posent déjà la question de la suite. On arrive, même en sortant de la période coronavirus, on arrive encore une fois sur une fin d'année où il n'y a plus d'accords commerciaux encore. Même si... normalement, ça devrait se re-signer et tout, que c'est en train de se faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'écuries qui se posent la question de la suite à donner à la participation à la Formule 1, mais déjà de leur survie. Et que la question des pilotes, c'est pas la question prioritaire. Effectivement, c'est toujours important d'avoir des pilotes, mais des pilotes demain, s'il faut en trouver, ils en trouveront. Et même si... Il y a un bon plateau, il y a ce qu'il faut. Maintenant, il y a des écuries qui auront sûrement besoin de fonds et qui auront peut-être pas le choix d'avoir peut-être un pilote un peu moins performant, mais qui amène du budget. Alors après, on parle pas tous des mêmes écuries, parce que forcément chez Ferrari il doit se passer des choses, mais je pense que la situation actuelle est fait que c'est un peu plus bas sur la liste des priorités que d'habitude.
sans pilote, tu peux pas envisager la saison prochaine. Et mine de rien, c'est aussi envoyer des gages, c'est aussi envoyer, même s'il y a beaucoup d'inconnus. Mais alors, je pense qu'on n'aura pas de transfert dans les semaines qui viennent, mais des confirmations. Mais effectivement, déjà le fait effectivement qu'il n'y ait pas eu de confirmation de certains pilotes, ça veut quand même dire qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Je sincèrement.
On envisage la saison prochaine. On envisage déjà même pas la saison actuelle, quoi.
On envisage plus facilement en ce moment la saison prochaine que la saison actuelle. Maintenant, tu viens de le dire, les préoccupations des équipes sont des préoccupations de comment est-ce qu'elles vont reprendre. Aujourd'hui, quand même, mine de rien, si tu peux sécuriser certaines choses, tu le sécurises. Un truc qui est relativement simple à sécuriser aujourd'hui, c'est quand même ton pilote. Je prends un exemple de Ferrari. Ferrari, aujourd'hui, sécuriser ton pilote. Alors, Ferrari, c'est pas forcément un très bon exemple dans la mesure où il y a sécuriser ton pilote. Maintenant, il y a quand même aussi le fait que c'est que ton pilote, tu le payes très cher en ce moment et que t'as peut-être pas envie de le garder aussi cher. Mais
en ce moment, sur ce pilote, t'as justement peut-être pas forcément envie de sécuriser, mais envie de changer aussi.
Oui, sauf que dans le contexte actuel,
un quadruple champion du monde, une réduction de salaire, c'est quand même pas un gage de confiance que tu lui envoies, quoi.
Ah non, mais ça,
c'est
très
un peu
clairement.
Par défaut.
Mais aujourd'hui, dans le contexte, c'est quand même face à quelque chose que tu peux simplifier. Et le cas de Ferrari, en ça, est intéressant parce que pour le coup, on voit clairement que chez Ferrari, il y a rarement quand même de fumée sans feu. Il y a effectivement très peu d'infos sur les transferts. Mais mine de rien, autour de Ferrari, il y a quand même des choses qui tournent. Je pense qu'il y a toujours une part de fantasme, une part de communication de médias parce qu'il faut bien parler. Maintenant, mine de rien, je pense que chez Ferrari, il y a quand même c'est un très gros dossier. Et je pense malgré tout qu'effectivement, la question des transferts aujourd'hui, c'est normal qu'on n'en parle pas. C'est normal, effectivement, au regard des enjeux, que ce ne soit pas une communication extrême et qu'on n'ait pas de changement. Maintenant, je pense malgré tout que dans les coulisses, c'est que ça fait quand même partie des choses que si tu peux les sécuriser, tu peux les sécuriser. Très clairement, je ne parle pas des écuries qui jouent leur survie. Mais par exemple, effectivement, si tu peux sécuriser un Bottas, tu peux peut-être le sécuriser. Très clairement, aujourd'hui, de ce qu'on sous-entend...
tu récupères la com derrière. Donc...
Hein ?
Non, je parlais de Toto Wolff encore.
Ah oui. Mais voilà, je pense que ça fait partie quand même des enjeux de pérennisation avec potentiellement... mais ce qui est compliqué à faire aujourd'hui parce que effectivement, un pilote ne va pas s'engager, ne va pas quitter son équipe qu'il a aujourd'hui, sauf à être sûr que l'équipe ne sera pas là l'année prochaine ou sauf à être sûr que l'écurie dans laquelle il va s'engager soit meilleure et sera là l'année prochaine. Mais voilà, mine de rien, tout ça, je trouve, dans la question des marchés des transferts, je pense qu'effectivement, le marché des transferts, il est gelé aujourd'hui. Maintenant, c'est pas forcément dans la négociation, mais c'est dans la réflexion. Je trouve que c'est une période... On avait plutôt apprécié dans Drive to Survive, la saison 1, l'axe autour de Ricciardo, et alors même si ça traînait un petit peu en longueur, mais l'axe autour de Ricciardo et de sa décision de transfert. Je pense malgré tout qu'en ce moment, que ce soit du côté des équipes, même si ce n'est pas une priorité, et du côté des pilotes, il y a une vraie réflexion aujourd'hui et une vraie... une vraie réflexion sur les transferts et c'est un dossier, mais c'est un dossier dont on ne parle pas, mais pour moi je pense que c'est vraiment un dossier dans les équipes.
Chez Renault, ils ont ouvertement dit que la question de la prolongation de Daniel Ricciardo était actuellement sur la table, hein.
Oui,
c'est un vrai sujet pour eux,
ne serait-ce que financièrement.
c'est un gros salaire, Ricciardo.
Quentin, sur les transferts?
C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout pris en compte aussi, même si j'imagine, comme l'a souligné Dino, que d'ailleurs il doit se passer des choses, mais c'est vrai que c'est très très, enfin il y a aucune info qui sort là-dessus, sûrement parce que aussi il y a pas le paddock réuni et donc il y a pas une assemblée de journalistes qui peut enquêter, qui peut faire avancer les choses sur ces sujets-là, mais c'est évident qu'il se passe forcément des choses. Après, franchement, de moi-même, j'aurais quand même dit que le truc était un peu gelé au niveau des transferts, à part effectivement où, celui de Vettel où on en parle, mais parce que le sujet de Vettel était déjà sur la table avant le confinement et avant la crise, quoi.
Mais t'imagines, aujourd'hui, t'es patron d'équipe, t'as pas vu ton pilote depuis 2 mois. Il est enfermé chez lui en Suisse. Tu sais pas. Oui, déjà il a pris 20 kilos. Donc faut que tu reconçois la bagnole. Mais tu sais pas avec qui il discute. Alors tu sais pas plus en temps normal. Mais là tu maîtrises pas du tout les choses. Moi sincèrement j'aimerais être une petite souris en ce moment dans ces coulisses.
Il y en a qui sont plus publics qu'avant. Hein. Leclerc, tu sais ce qu'il fait à l'instant oui. T. Norris.
Il a la banane.
Ouais, c'est sûr. Là, il n'est pas en train de parler avec.
Ouais, Vettel aurait mis un sponsor Red Bull sur sa voiture d'e-sport. Il aurait peut-être eu de quoi de se poser des questions.
Ah, il était au ski cet hiver avec Helmut Marko, non?
Oui, avec It's Bull.
Mais pour le coup, je pense que c'est un des sujets prometteurs aussi à la reprise, quoi.
Si tant est qu'il y ait une reprise.
Exactement.
Mais si ça se trouve, ça bougera avant la reprise. Hein.
Oui, pour. Si ça bouge avant l'imprise, ce sera pour des confirmations.
Ou des premières communions.
Oui, ce qui est la première, ce qui n'engage à rien, entre guillemets, de confirmer un pilote. Au pire, le pilote, il reste à sa place, tu t'écroules, de toute façon, il est libre. Donc, voilà. Donc, peut-être des confirmations dans les petites équipes. Enfin, dans les petites équipes. Dans les équipes de milieu de tableau, quoi.
Mais c'est peut-être aussi ce qui va bloquer ou faire bouger le marché.
C'est ça.
Est-ce que vous pensez, dernière question et après on conclura, que le line-up des écuries, si ça reprend en juillet, il va changer dès juillet? Est-ce que ça remet pas des choses en question? Est-ce que, je sais pas moi, c'est peut-être une question qui me passe par la tête. Là, on aurait dû commencer la saison, on l'a pas fait. Est-ce que ça peut remettre des choses en question? Est-ce qu'il peut pas se passer des choses justement dans?
Si un pilote chope le Covid, ouais, ça va changer.
Alors si un pilote chope le Covid,
tu prends un truc tout bête. Je crois que c'est James Hinchcliffe qui est en IndyCar est diabétique. Aujourd'hui, non, imagine. C'est Charlie Kimball. Imagine aujourd'hui un pilote diabétique. Les diabétiques sont parmi les publics fragiles, donc en fait, tu sais que ton pilote potentiellement ne peut pas bouger.
Un pilote asthmatique, Chris Froome, est-ce qu'il va reprendre?
oui, parce qu'il aura ce qu'il faut comme accompagnement.
les pilotes obèses, comme Montoya, ouais, c'est embêtant. Hein.
Je pense que s'il y a des changements, ce sera plus des changements de remplacement que véritablement des changements de pour le coup de fusil d'épaule.
Sauf problème santé, normalement les contrats sont toujours en place, donc je pense pas que ça bouge. Hein.
Tu pourrais avoir un cas, ce qui pourrait être intéressant, c'est admettons par exemple, alors ça serait pas le cas parce que je crois qu'il a un contrat de 2 ans, mais admettons si Ocon avait été signé pour 1 an chez Renault. T'aurais pu avoir un cas où, par exemple, Ferrari cherche un pilote. Ils disent, tiens, Ocon, c'est un très bon pilote. Au final, sur la fin de saison, il va pas faire grand chose chez Renault. Ils vont le chercher. Comment réagit Mercedes? Est-ce que Mercedes, qui va plus tartiner que 3 mois avec Bottas, va pas se dire, pour le coup, Ocon chez Renault, ça me dérangeait pas. Mais Ocon chez Ferrari, ça me dérange un peu. Et est-ce que tu peux pas trop trouver?
Te couper, mais Ocon n'a plus aucun lien avec Mercedes.
Oui, mais entre guillemets, si toi tu es Mercedes, avec les liens que tu peux avoir avec lui, tu peux te dire si, encore une fois, dans un scénario, l'exemple d'Ocon, je prends un exemple, mais je pense qu'il n'y a pas de pilote qui soit comme ça, mais pour vraiment être dans la fiction, mais si tu as Ocon qui est dans sa dernière année de contrat, tu as de bonnes relations, c'est-à-dire que s'il a fait de bons résultats, tu es Mercedes, si tu es encore au top, tu vas quand même être avantagé, parce qu'il connaît la maison, etc., donc ça va t'avantager. Là aujourd'hui, comment réagirait Mercedes? Est-ce qu'il laisserait filer un Ocon ou même un Russell chez un concurrent pour un contrat plusieurs années, alors qu'ils sont peut-être pas sûrs de garder Bottas? Et du coup, est-ce qu'ils auraient pas, si on reprend un exemple récent qui est l'exemple de Max Verstappen, un pilote qui aurait un très bon environnement et qui dirait, écoutez, moi c'est tout de suite maintenant que je veux rouler. Donc là, tu pourrais peut-être avoir un changement où finalement Mercedes, de peur de voir partir son pilote du futur chez un gros concurrent, préfère le récupérer et du coup lui donne le baquet en cours de route. C'est de la pure fiction. Hein. mais ça pourrait être un cas qui pourrait se présenter, sans compter les histoires de clauses. Comment vont se dérouler les potentielles clauses de sortie? Le mec qui a prévu qu'il fallait qu'il fasse 3 podiums avant le 1er juillet, bon, là aujourd'hui, potentiellement, il est libre de tout contrat, quoi.
Alors justement, c'est une dernière question, et cette fois-ci, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui joueront con, sans jeu de mots avec Esteban, sur la fin des contrats, c'est-à-dire un contrat qui se termine le 31 décembre 2020, genre Ricciardo, est-ce qu'il dira non, mon contrat il s'arrête, il reprolongera pas, et il se dira bah, j'essaierai de finir les 2-3 Grands Prix s'il y en a en 2021 chez Ferrari, chez, etc., etc. Est-ce qu'à votre avis c'est une situation qui peut se présenter?
Hamilton, déjà, champion du monde chez Ferrari, tu vois.
Un champion du monde sur deux voitures différentes, deux constructeurs différents.
C'est déjà arrivé. Fangio, dans les années 50, à mon avis, a fait quelques saisons avec deux constructeurs différents.
En 54, il commence la saison chez Maserati, ouais. Il la termine chez Mercedes. Ouais,
c'est pour mais ça que j'ai pas fait de jeu, parce qu'il y avait un favori clair.
Non, mais par rapport au point que tu as soulevé, moi, je pense qu'il y aura une sorte de gentleman agreement entre toutes les écuries pour éviter ce genre de choses.
Entre toutes les écuries et Toto Wolff, soyons clairs.
Oui.
C'est nouveau.
Entre Toto Wolff et lui-même.
C'est ça.
Mais faudra déjà voir si c'est possible de jouer au con. Est-ce que dans les contrats, si c'est marqué, si c'est des dates précises, je sais que ça a pu arriver pour certaines dates, notamment au 31 décembre pour les tests de nouvelles voitures. Mais si c'est marqué que le pilote doit faire la saison 2020 et que la FIA décide que la saison 2020 se termine en 2021, bah la saison, ça reste la saison 2020. Donc sur ça, il n'y aura pas de possibilité de discuter. Mais après, ça serait intéressant à voir. Après, je pense que ça dépendra. Le pilote qui est dans une bonne équipe n'aura pas intérêt à le faire non plus. Donc,
je pense que
ce serait plutôt une équipe qui ferait ça. Parce qu'un pilote, je le vois mal. S'engager comme ça, ce serait vraiment se faire de la mauvaise pub, sauf si vraiment il signe quelque chose de très très bon derrière. Mais une équipe comme Red Bull, avec le management des pilotes qu'ils ont pu avoir, ce serait pas. Je pense que ce serait peut-être eux les plus à même à faire. En tout cas, ce serait les moins étonnant de voir Red Bull. Mais bon, eux, ils ont même pas besoin des conditions actuelles pour faire ce genre de truc, quoi.
Allez, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Enfin.
On n'a même pas parlé des projets d'Alonso pour 2021. C'est dommage.
Non, on parle de Formule 1 ici. Tout ce qui est Alonso, mais... e-sport...
Oui, mais sur Twitter, la F1 a gagné le sondage d'Alonso. Donc...
La quoi?
Bah, Alonso,
non, je ne veux pas savoir.
C'est l'homme le plus influent de la planète de toute l'histoire de la Formule 1.
Ah ouais, d'accord. Super. Finalement, j'aime bien Toto Wolff. Tu vois, c'est... Non, mais en plus, Toto Wolff, j'ai rien contre lui, mais bon, c'est... Voilà. Bah écoutez, avant de se quitter, on va vous rappeler les petits rappels habituels, alors que j'ai pas préparé, donc ça va être fait pêle-mêle, hein. On est sur internet,
c'est déjà pas mal.
C'est important, non, parce que s'il n'y a plus d'internet, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de lire des livres, loin de moi cette mauvaise idée, quoi.
Tu t'es pas imprimé le règlement? Tu t'es pas imprimé tous les règlements de la F1 depuis 1950?
Moi, je suis vendu à Adobe, moi c'est du PDF. Non, alors par contre, c'est rigolo que t'en parles parce que je suis demandeur qu'on m'envoie des vieux règlements. Si jamais vous trouvez trace des vieux règlements qui tenaient sur les post-it à l'époque, à l'époque c'était l'almanach de la FIA de l'année où t'avais tous les règlements de tous les championnats FIA parce que chaque règlement tenait sur même pas une page en A5, tu vois. Parce que le règlement de la Formule 1 c'était ton moteur c'est 1 litre et demi suralimenté ou 3 litres ou des trucs dans le genre, quoi.
Il y en a un exemple dans Le Mans 66, où effectivement le règlement de la... Alors je sais pas si c'est la CO à l'époque, mais le règlement il tient sur un A4 plié en deux, quoi.
Oui, c'était une autre époque. Maintenant on a un règlement sportif où t'as la taille des serviettes du podium, quoi. Enfin, bon, bref. Donc on est où? On est sur YouTube.
Alors,
on est sur...
Précisons quand même que on prend aussi les règlements, hein. Tous les règlements.
Nature, pas nature, petite coupure, grosse coupure, titre interbancaire de paiement, chèque postal.
On préfère le sans contact en ce moment, mais sinon, on prend.
On est sur YouTube, on est sur Apple Podcast, on est sur PodCloud, on est sur... Alors, je vous ai dit, hein, ça va être le bordel. On est sur toutes les plateformes possibles et inimaginables, Deezer, Spotify, etc. etc.
Sur Podcast Addict, j'ai promis sur Twitter que je préciserai un jour qu'on est sur Podcast Addict.
Podcast Addict, évidemment. N'hésitez pas à importer tous nos flux RSS qui sont sur notre site internet, puisque la F1 sur internet, c'est sur
savf1.fr,
bien sûr.
Savf1.fr. C'est Eva, mais moi je serais Bibi, je m'inquiéterais.
C'est parce que je suis loin du micro, espèce de gros con. Ah bah non, merde, espèce de con tout court.
Non, pas gros. Tu veux, mais gros, c'est plus vrai.
Là, c'est un peu les hôpitaux qui se foutent de la charité.
Je crois qu'on dit c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité.
Messieurs, le SAV de la F1, c'est
confiné.
Enfin, le SAV, c'est confiné. Mais...
C'est plus d'actu.
C'est pas confiné.
ça, c'est des mots valises, confiné. Voilà, bon. Ça n'intéresse que moi, c'est pas grave. Je vais justement faire mes valises sur la présentation de cette émission. Vous remercier de m'avoir accompagné lors de ces plus de deux heures de débat sur l'actualité.
Ouais, j'ai cru que tu allais annoncer une bonne nouvelle. Sur ces plus de deux ans, je fais mes valises.
J'ai déjà fait, ça j'ai déjà donné.
Après la valise de Linda de Souza, la valise de Gus Gus, c'est bien.
Je dis ça parce que voilà.
Hein. Chef, est-ce que je peux faire un petit coup de pub ?
Merci de nous avoir suivis.
Non mais, fais pas ta chienne, ça concerne les sports mécaniques.
Vas-y.
Nous avons été quelques membres du SAV à participer à une émission qui s'appelle Parlons Sport Auto. Émission voilà, qui est c'est présentée par... par Quentin. Voilà, donc c'était juste pour vous dire... Alors, il ne me semble pas qu'elle ait été publiée encore, Quentin.
Pas encore, non. Mais ça devrait arriver dans les jours.
C'est le montage qu'on achève les endives, c'est pas pour tout de suite.
Non, c'est pas moi qui la montre. Peu après l'émission, peu après cette émission, mais elle devrait arriver dans les jours qui arrivent. Et je précise aussi qu'en plus de quelques membres du SAV, on a eu aussi Oasis qui nous a rejoint pour l'émission.
Et donc, ce sera disponible sur quel site ?
Elle sera disponible sur PodCloud.
Et évidemment, sur notre compte Twitter, SAVF1, @SAVF1.
Et je te remercie, Nino, pour ce petit coup de pub.
Oui, parce qu'on est sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, LOL.
Google+.
Ça n'existe plus, en plus. Et l'occasion...
C'est Google moi, maintenant.
Fait parce que c'est Google... Et l'occasion aussi de préciser, parce que je ne l'ai pas fait, parce que je pensais... Je ne pensais pas que c'était le cas, mais de re-souhaiter la bienvenue à Quentin.
Merci. C'est vrai que c'est la première officielle.
J'avais zappé, je pensais que tu en avais fait déjà une. Mais...
Ah, c'est le même Quentin ?
C'est le même.
Ah putain, je me disais qu'il y avait un truc dans la voix. Ah, c'est cool Quentin, ça fait plaisir.
Ouais, mais j'avais pas compris tout de suite, c'est pour ça que j'ai pas mis mon veto. Mais si j'avais su, voilà quoi.
T'aurais pas venu.
Connard.
Bon. Petite bande d'enculés à la prochaine. Merci de nous avoir suivis et prochain rendez-vous,
quand en juillet.
Assez d'actu, en juillet, probablement, peut-être si ça reprend. Ouais, normalement, ça reprend le début juillet.
Ah, moi, j'y crois.
Juste avant le premier Grand Prix, quand on se dira faut dégrossir un peu, c'est pour pas avoir trop à faire.
Non, mais ça, on était sage, on a fait même pas 2h30 sur un mois d'actu. On aurait pu faire pire.
Ça, c'est la préparation.
Ouais, préparation. Moi, ce soir, j'ai juste préparé des crevettes.
Rempli de 21h, j'ai commencé à préparer à 20h. Voilà. Allez, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine fois. Et surtout, restez confinés encore quelques jours.
Ciao.
Ah, c'est moi qui lance le jingle, excusez-moi.
Pouet.